Bonjour et bienvenue à vous, gamebloggeuse, gamebloggeur. Bienvenue dans ce podcast 157. Bienvenue dans un podcast dont la thématique est d'exception. Et c'est pourquoi nous avons invité Fred Müller. Fred Müller, tu es responsable, contrôle, qualité au sein d'une société dont le jeu de mots défierait même l'imagination des Daft Punk. Around the World.
Voilà, Around the World. Bonjour.
Ça va bien, Fred ?
Ça va très très bien.
Oui. Et si nous t'avons invité, c'est pour parler de la localisation dans le jeu vidéo. Around the World, c'est une société dont c'est justement l'insigne honneur, traduire, localiser les jeux auxquels
exactement.
Nous jouons.
Voilà, tout à fait.
Comment ça se passe chez Around the World ? Est-ce que tu peux nous situer un petit peu la genèse de cette société qui existe depuis combien de temps d'ailleurs ?
Alors, c'est une société qui existe depuis 1998. Le 12 juillet au soir, les gens se réunissent dans les rues.
C'est vrai,
non, c'est faux, bien sûr que non.
Dommage.
Mais c'est en 1998 que la société a été créée. Voilà, c'est ça. Et ça est le premier jeu qu'on a enregistré. c'est en 98 que la société a été fondée, ouais. Et depuis on traduit, on localise énormément
et
de
avec
jeux.
Quel jeu vous avez commencé justement? Quel avec un S?
Ah écoute, là tu m'en demandes beaucoup parce que je t'avoue que je suis pas là depuis 98.
Ouais. Hein, j'étais pas né en fait.
J'étais né mais j'étais dans la rue précisément en train de
festoyer.
Voilà, tout à fait, avec quelques-uns encore, on était là. Mais non, je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'on a fait comme jeu dès 98.
Bon, en tout cas, depuis 98, Around the World a travaillé sur la série des GTA, des Grand Theft Auto, depuis le troisième épisode.
Voilà, tout à fait.
Celui vraiment du démarrage, un petit peu quand même, de la notoriété du titre. Sur, plus récemment, Red Dead Redemption.
Voilà.
Les Bioshock 1 et 2 aussi. Les Call of Duty, et ce, depuis le début, en 2003.
Oui, voilà.
Une petite série qui, depuis, a connu un petit succès d'estime mondial. Mafia 2, très récemment aussi.
Oui, tout à fait.
Et bien, justement, pour parler de la localisation dans le jeu vidéo, eh bien, je ne serai pas seul à tes côtés, puisqu'il y aura aussi Julo.
Bonsoir.
Comment vas-tu, Julo ?
Très bien, merci.
Formidable, plein de choses
même,
à dire.
Bah,
écoutez, plutôt bien, ma foi. Et puis aussi, l'homme qu'on doit localiser, direction la Belgique, Raon.
Bonsoir.
Schriftgeiser. Ça va bien ?
Schriftgeiser, oui.
Schriftgeiser. Comment tu traduis son nom ? Si on voudrait que ce soit compréhensible pour les Français.
Écoute, fais très attention à ce que tu vas dire.
Ça, oui, voilà, ce serait un peu... laissez la police faire son travail.
Vraiment, voilà. Alors justement, dans ce podcast, beaucoup de questions que l'on se pose, que vous vous posez probablement, puisqu'on l'a vu dans les forums de Gameblog très fréquemment. On voit souvent des réactions de votre part sur des petits reproches quand même qui sont faits de la part des joueurs sur certaines traductions qui ne sont pas forcément de haute volée, des voix aussi qui prêtent à caution. Justement, on pourra parler un petit peu des différences entre les versions originales, les VO, et les versions françaises, les VF. Tu vas nous expliquer, Fred, justement un petit peu tout le processus, comment ça se passe, puisque vous vous occupez de la localisation, c'est-à-dire les termes traduits fréquemment de l'anglais au français, mais aussi des castings pour les voix en français, comme tout ce processus qui finalement aussi donne vie et âme à beaucoup de jeux quand même. C'est important la localisation aujourd'hui.
Bah, je pense que oui, c'est vraiment très très important parce que c'est comment dire, c'est la manière de s'adresser à un public français spécifique, francophone, parce qu'il n'y a pas que la France de métropole qui compte pour ces joueurs. Et tout simplement, quand il s'agit de raconter une histoire, la raconter en français, c'est pour de très nombreux joueurs la solution. C'est comme ça. Ils n'ont pas accès ou ils n'ont pas vraiment le niveau pour jouer au jeu en anglais. Donc, il y a un réel travail d'adaptation plus que de traduction pure et dure.
Mmh. Voilà. Et c'est parfois même compliqué parce que c'est effectivement, on va commencer par lever un loup en ce début de podcast. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui apprécient et ne pourraient pas imaginer jouer à un jeu, voir un film autrement qu'en VO. ST sous-titré pour avoir justement la version originale, le ressenti, les acteurs initiaux, ceux qui comprennent vraiment leur voix aux personnages, qu'ils soient réels au cinéma ou numériques dans les jeux vidéo.
D'autant
plus
aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de casting avec des grands noms, des acteurs américains ou britanniques.
Néanmoins, dans la réalité, c'est ce que tu commençais à dire, Fred, c'est vrai que le gros du public n'est pas attiré vers l'AVO et préfère largement l'AVF par simplicité ou même parce que, par exemple, et je pense à un cas comme GTA 4, où effectivement bah, les jeux restent en VO au niveau des voix, mais sont sous-titrés. Et c'est vrai que parfois, voilà. Même pour des gens qui maîtrisent bien l'anglais, quand on est en pleine séquence de course-poursuite, où on est concentré sur la vitesse, c'est pas comme un film. Suivre ce qui est en train de se dire, plus les klaxons.
Il y a même pire, il y a Call of Duty. Call of Duty, t'es en train de te faire tirer dessus comme un taré, ça te crie dans tous les sens. Et on te balance des instructions au fur et à mesure, surtout dans Modern Warfare 2, par exemple.
Oui. Le mix n'est pas très bon en plus.
C'est difficile à suivre si t'as pas un son spatial, effectivement. Ouais.
Donc ça doit pas être évident, effectivement, on comprend que la localisation c'est quand même particulièrement important.
Dire, c'est encore plus chiant dans les jeux de Rockstar, parce que les jeux de Rockstar, il y a des vannes partout, etc. Ouais. Et puis souvent, ils prennent les accents locaux, Red Dead Redemption, etc. Donc t'as envie de suivre l'action et d'écouter avec ton bon niveau d'anglais, tu dis là, je vais comprendre, etc. Mais finalement, tu captes pas tout à moins d'avoir
Et c'est là que tu te rends compte que ton anglais n'est pas si bon que ça.
C'est pas si bon que ça, et donc tu lis les sous-titres, t'as un peu de mal, etc. C'est vrai que moi, je préfère les jeux en VO, bien sûr, mais. C'était surtout dépendant de la qualité des traductions et des doublages français, mais ça va en s'améliorant, je trouve, quand même, ces dernières années.
Bah, si, oui, c'est vrai.
D'autant que quand c'est bien fait, c'est clairement de qualité. On l'a vu récemment avec Alan Wake, par exemple.
Par exemple.
Les voix françaises sont très bonnes et la traduction l'est tout autant. Mm. Fred, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus ? Comment ça se passe ? Vous êtes contacté combien de temps en amont ? Vous avez à peu près généralement quel laps de temps pour réaliser ce genre de traduction ? Et qu'est-ce que ça met en place, le travail entre l'éditeur, le développeur et vous ?
Alors, de manière générale, ça se passe plusieurs mois à l'avance. De sorte que
mois étant entre quelle fourchette ? J'imagine que c'est pas toujours la même chose, bien sûr.
Plusieurs mois avant quoi ? Avant l'annonce même du jeu, tu veux dire ? Non ?
Je saurais pas exactement dire. Ça peut aller de un an ou deux ans de travail avant la sortie effective d'un titre, avant qu'il soit disponible en magasin. En revanche, c'est effectivement, ça se compte plutôt. En moyenne, en mois, pour donner une fourchette, je dirais de 3 à 6 mois, pour vous donner une fourchette. Mais tout est conçu de sorte que la version française traduite sorte simultanément ou pratiquement simultanément avec la version originale pour que ce soit une sortie mondiale.
Ce qui n'était pas le cas, effectivement, il y a 10 ans.
Voilà. C'est ça. C'est en fait le piratage, je pense, qui a modifié beaucoup de choses, ou plutôt, pour être plus précis, je dirais la peur du piratage et d'Internet, en fait.
Ah
je
oui.
pense. Je pense que c'est, il y a eu des échos à droite à gauche de versions qui étaient disponibles avant sur les torrents, etc., etc.
Mais alors, qu'est-ce que ça change par rapport aux gens qui auraient acheté le jeu s'il avait été en VF, de le pirater en version originale?
Ma foi, ça, c'est une bonne question. Faudra poser aux bonnes personnes. Ce que je voulais juste dire par là, c'est que le phénomène, justement, de ta première question, Julien, de sortie simultanée mondiale, c'est là où, justement, ça commence à coincer, puisque nous, on nous demande de travailler sur un produit qui est tout sauf final. Et qui arrive en kit, puisque les développeurs sont en train de le terminer. Et c'est précisément la faiblesse et le grain de folie de la localisation, c'est que on traduit quelque chose qui est pas terminé. Si tu prends n'importe quel autre objet,
un livre, voilà, un film.
Voilà, j'aurais pas dû dire objet parce que c'est mal de dire d'un livre que c'est un objet.
Bien culturel.
Voilà, c'est un bien. Un livre, effectivement, un film, une série télé, tu attends d'être arrivé au dernier mot de la dernière page pour pouvoir traduire et pour avoir un contexte complet. Voilà. Et pour que tu puisses traduire dans les meilleures conditions possibles, parce que sinon ça rime pas à grand chose.
Quand tu dis que les éditeurs et les développeurs et où vous fournissent des jeux en kit, finalement, qu'est-ce qu'ils vous fournissent?
Alors, essentiellement, la base de notre travail, ça se fait dans un fichier Excel ou un fichier Word, quoi. Donc c'est un bête tableau.
C'est très sexy, donc.
Voilà, c'est éminemment glamour. C'est effectivement une colonne avec l'anglais, une colonne de traduction avec le français ou avec toutes les langues, si c'est même des fichiers multilingues comme ça arrive. Et il y a aussi un indicatif unique pour chaque cellule pour que ça puisse être réintégré ensuite dans le moteur du jeu. Donc c'est ce qu'on appelle un string ID. Donc,
string ID.
Ouais. String, c'est une chaîne de caractères en anglais.
Évoquer autre chose.
Ça, c'est beaucoup plus glamour. C'est la partie glamour de mon travail.
C'est plus tendu.
Voilà.
Voilà,
voilà, c'est ça. C'est effectivement, voilà, c'est la partie la plus glamour, le mot String ID. Après, ça s'arrête là.
Très bien. Vous pouvez éteindre ce podcast désormais. Ça va être chiant. Mais c'est ce qui fait que du coup il n'y a pas de contexte du tout, c'est ce que
voilà,
tu commences à nous dire.
Parce que on alors c'est souvent le cas comme ça, il y a genre rarement de contexte et vous avez juste des pages de script ou de string.
Voilà, c'est un des problèmes, enfin le premier problème qu'on a, c'est un problème de contexte. C'est-à-dire qu'on est obligé de courir après le sens et aller à la pêche aux informations, quitte à poser des questions aux éditeurs plus qu'aux développeurs. Même, c'est l'éditeur qui fait l'interface entre nous et le
développeur. Vous êtes jamais en contact direct avec le développeur ?
C'est devenu rarissime, en fait.
C'est devenu rarissime.
Oui, parce que il y a encore quelques années, il y avait.
Quelques années, ça se situait.
Ah, je dirais que. Tu vois, encore au début des années 2000, tu pouvais, de ce que je comprends, tu pouvais encore mettre un petit peu les mains dans le cambouis. C'était, ça reste artisanal ce qu'on fait parce que, mine de rien, il faut bien qu'il y ait une personne qui relise, qui traduise, qui enregistre un texte. En revanche, les cadences et le système est tel que, effectivement, il y a plus le côté artisanat où on peut parler directement à la bonne personne en disant hey Coco, enfin en anglais, hey Coco.
Hey Coco.
J'ai un problème, je comprends pas telle ligne, telle réplique.
Parce que c'est mine de rien, et c'est ce que tu nous dis à la lumière de tes paroles, on commence à comprendre un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'on a des exemples majeurs.
Oui.
On se rappelle par exemple de titres comme Metal Gear Solid 2, où dans les premiers instants du jeu, Snake parlait au colonel Campbell et en anglais, en version originale, lui dit « Do you copy that ?» Ce qui veut dire « Est-ce que tu m'entends ?» Est-ce que c'est
est-ce
ok
que reçois,
est-ce,
ouais.
est-ce que tu reçois oui. Et traduit en français par « Est-ce que tu peux me le copier ?» Et effectivement, on se dit « Bon, il y a comme qui dirait un problème. » Et alors, quand on est avec le jeu, on se dit « Mais ils sont bêtes ou quoi ?» Et effectivement, si vous recevez juste « Do you copy that ?»
Ouais, en entendu, you copy that, ils auraient dû pouvoir le traduire même
colonel
sans contexte.
Par rapport... Ok.
Mais voilà, ça aurait pu se passer dans une cour d'école et voilà, suite à une punition.
Il y a pas un recheck derrière des développeurs ou je sais pas. Enfin, c'est difficile. Si effectivement, c'est pas leur langue maternelle.
C'est un peu. Oui. Alors, c'est aussi le deuxième problème, c'est qu'on se heurte à la barrière de la langue. Et même si nous, on travaille tous les jours en anglais pour et communiquer avec l'éditeur et parfois avec le développeur indirectement. Les gens qui de langue anglaise ne sont pas forcément familiarisés avec les problématiques françaises ou même les problématiques de traduction précisément.
C'est-à-dire que les développeurs, quand ils conçoivent leur jeu, ne se posent aucune question par rapport à la future localisation.
Ça commence à venir. En revanche, c'est un peu comme dans d'autres secteurs du multimédia, c'est-à-dire que le marché français, tu penses bien que pour un Américain,
oui, c'est peanuts, ouais.
Voilà, c'est cacahuète.
Bien sûr, surtout qu'on sait que les versions que nous on a en Europe généralement bénéficient de traductions à la fois en français, en allemand,
voilà.
En italien,
en
espagnol, et ce qui fait que pendant très longtemps on nous expliquait aussi les retards des versions PAL par le besoin d'avoir un temps de traduction plus long.
Alors je vais pas, on a les excuses qu'on peut, hein, c'est possible, hein, ça prend du temps la traduction et la localisation de manière générale. Tu peux pas faire ça à la vitesse de l'éclair parce que tout simplement tu as besoin de comprendre ce que je vous disais au début, c'est-à-dire le contexte. Tu as besoin de connaître une situation ou une histoire parce que c'est quand même le cœur du truc, l'histoire. T'as besoin de comprendre le début d'une histoire, parfois même le contexte initial et jusqu'à la fin de l'histoire, la chute et l'épilogue. Et ça demande du temps. Parfois je pense que pour ce qui est du délai qui est parfois évoqué par les éditeurs, ça peut être une excuse indirecte. Je dirais pas fallacieuse, même si c'est un mot que j'adore, mais je peux pas me permettre de juger. Après, tu sais, il y a aussi la politique éditoriale, c'est pas toujours simple, hein. Les types sont obligés de gérer des jeux en 5 langues ou 10 langues maintenant, c'est plus de l'ordre de 10 ou 12 langues, ouais. Et ils ont leurs propres impératifs, donc nous on est juste derrière.
Et c'est très rare, voire jamais, que vous recevez, je ne sais pas, vers la fin du développement, la fin de votre période de traduction, je sais pas, une version alpha qui vous permet d'avoir un check un peu plus général, de se dire bon, allez, maintenant j'ai ma trad, je vais comparer avec le jeu,
c'est vraiment que du string, ensuite la trad.
C'est rarissime, ça n'arrive jamais, bon, même on peut dire.
C'est vrai.
Ça n'arrive jamais.
En fait, c'est-à-dire que vous ne voyez que la version finale une fois vos traductions intégrées pour avoir le dernier check, quoi. En fait. C'est-à-dire au moment où vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit.
On ne peut plus rien changer, le moment où les gens peuvent l'acheter en magasin. Ouais,
ça explique plein de choses quand même. C'est assez flippant, moi. Je pensais vraiment que vous aviez plus d'éléments qu'un tableau Excel et le mail d'un éditeur qui
voilà, après
qui salut mec, ensuite,
voici les trades.
Ouais. Ben oui, voilà, c'est en ça que c'est de la lolcatisation. C'est parfois un peu triste en fait, parce que c'est ça aussi que je voulais dire, même si c'est pas un coup de gueule, mais en fait c'est ça, c'est que ça reste des gens qui sont passionnés, les agences de localisation, les gens qui sont spécialisés dans le jeu vidéo, les traducteurs, c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui sont passionnés par la traduction, ce qui tombe plutôt pas mal, mais c'est des gens qui veulent vraiment faire briller le jeu, qui en général ils ont vraiment un coup de cœur pour le jeu ou les jeux de manière générale, et ils veulent le faire briller en français pour qu'il soit
et c'est pour ça qu'on
accessible.
Trouve dans vos traductions des vannes du grand étendement.
C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est pour ça. Ça, c'est du. Oui, c'est de la cuisine interne. Mais effectivement, ça, c'est des.
Ça explique aussi peut-être quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une augmentation de la qualité des traductions et des doublages. C'est peut-être le fait, effectivement, que ce soit des vrais joueurs qui finalement arrivent dans ces boîtes de traduction, etc., qui s'occupent de ça. Parce qu'à l'époque, ça devait être qu'un. Soit quelqu'un qui n'y connaît rien, la traduction automatique, etc. Enfin, progrès s'explique peut-être par ça.
Même à des âges reculés, hein, si tu prends les premiers, je sais pas si on peut commencer à parler de jeux, si tu prends les premiers Sam & Max, Hit & Road, tous les grands jeux de cet âge-là, c'est des types qui étaient des passionnés que je connais personnellement, un des traducteurs qui a chapeauté aussi la version française en studio, qui s'est assuré que en studio toutes ces vannes étaient bien comprises, que les comédiens comprenaient bien dans quel contexte, encore une fois on en revient au mot de contexte, ça avait été écrit ou adapté, puisque c'est plus de l'adaptation. Et ça, ça date de 98, je crois. 81.
Oui, ça doit pas être plus vieux que ça. C'est peut-être même un peu avant d'ailleurs.
Tu vois, donc c'était en gros avant les années 2000. Effectivement, tu avais des traductions qui étaient complètement ahurissantes, qui pouvaient énerver beaucoup de joueurs français.
Y compris pour des gros titres, hein, si t'es Metal Gear.
Oui,
bah,
bien
tout
sûr.
À l'heure, c'est l'exemple parfait. Quoi.
Oui, Metal Gear, il y avait une autre dimension en plus, c'était justement le casting et la voix de Snake. Quoi.
Dont on va parler dans ouais. quelques instants.
Parce qu'il y a plein de choses évidemment qui constituent la localisation, il n'y a pas que la traduction, et il y a tout le processus dont vous vous en occupez aussi après. Qu'on a
mais restons encore quelques instants sur la traduction pure et dure. Ça se détermine à quel moment le fait que le développeur ou l'éditeur, ça c'est à toi de nous le dire, vous laisse la liberté entre adapter ou juste traduire littéralement, parce que c'est vrai comme le disait Julio, il y a des blagues qui sont intraduisibles de l'anglais au français.
C'est en fait, c'est
peut-être que l'éditeur veut que vous respectiez sa manière de traiter les choses.
Bah en fait c'est quasiment un jeu sur deux, puisque enfin une blague qui est pas traduisible, si tu la traduis de manière littérale,
ça veut plus rien dire.
C'est vraiment voilà, autant plus rien faire quoi, autant ouais. Bon voilà, on s'en va quoi.
Mais ils vous disent vous avez carte blanche, on vous fait confiance, ou c'est vous qui est subrepticement placé des petites blagounettes.
Non voilà, on essaye de pas, on essaye de faire ça, enfin c'est un métier sérieux quoi, on rit le moins possible, on essaye de rire le moins possible. Non,
aujourd'hui j'ai ri deux fois, je serais blâmé.
Mais c'est le week-end en général, hein, en plus, pour être sûr que voilà, qu'il faut pas que ça mélange tout. Non, ça reste sérieux, mais maintenant j'ai un ou deux exemples, j'ai des petites anecdotes. J'ai justement, il y a quelques années, pour. Un éditeur nous a contacté pour localiser Mortal Kombat Shaolin Monks, qui est un jeu qui était un beat'em all, hein, donc c'était pas un jeu du 1 contre 1 du versus, et pour des raisons légales, juridiques, je sais pas exactement pourquoi, ils nous ont demandé je vous raconte pas la gueule du script, parce que c'était une histoire absolument abracadabrantesque, même abracadabrantesque.
Le brac étant, tu le mets avec un K ou un C?
Avec un K, bien sûr, c'est obligé. L'histoire était vraiment sans queue ni tête.
Tu le mets avec un Q ou un K?
Avec un K. Dès qu'on parle de Mortal Kombat, la phonétique n'a vraiment plus raison d'être. Et le service juridique voulait absolument qu'on utilise des mots anglais pour les grands termes qui étaient, je crois, des termes déposés de Mortal Kombat, genre Earthrealm, tout.
Ou, Fatality.
Fatality, à la limite, moi, ça me choque pas, moi, perso, qu'on le mette en anglais.
Plutôt que Fatalité.
Oui, oui, vraiment. Ouais. C'est une question de. Enfin, voilà, c'est comme Game Over, quoi. Il y a des choses.
Je finis.
D'ailleurs, comment tu traduirais Game Over, tiens?
Alors, après, les plus beckettiens d'entre nous, donc Samuel Beckett, il recherchait fin de partie, mais j'ai rassuré Game Over, quoi. Mm. Fin de partie, oui, c'est triste, comme une vieille pièce de Beckett. Qui fait pas rire, mais voilà, un peu comme ça.
Faut voir Julot. Hein.
Désolé.
Sur la vidéo.
Mais Game Over, ça se
donc en fait
pas.
Tous les termes de l'univers en fait de Mortal Kombat qui étaient des héritages de formulations anglaises, ils voulaient pas que vous les traduisiez.
Voilà. Spéciaux, c'est ça.
Non, en plus les termes de l'histoire, c'est-à-dire Earthrealm, il y a un royaume qui s'appelle Earthrealm dans Mortal Kombat, dans la mythologie de Mortal Kombat. Il y a une académie
passionnante
de Mortal Kombat. Il y avait une académie de moines Shaolin qui s'appelait Académie Wuxi. Il fallait pas traduire, il fallait mettre Wuxi Academy. Enfin, un certain nombre de termes qui faisaient que dans une traduction, c'était intenable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se retrouver avec une phrase du genre « Je vais aller combattre Earthrealm grâce à la Wuxi Academy ». Voilà, c'était ça qu'ils voulaient. Donc les types, on les a contactés, l'éditeur, on leur a dit « Bon, voilà, il y a deux possibilités de faire ça. Soit on fait... »
Il y a la bonne et il y a la mauvaise.
Soit on fait ce que vous nous dites et on a l'air con.
Soit on fait ce que vous nous dites et on a l'air con, exactement. Soit ce qu'on peut faire, c'est qu'on respecte quelques termes, enfin, on respecte ce que vous voulez, on peut peut-être négocier quelques termes que vous voulez vraiment garder et on essaie d'adapter vers quelque chose qui va ressembler à de la série Z.
Ouais.
De la série Z. Et en fait, parce que l'histoire de Shaolin Monks, je sais pas si vous y avez joué, c'est de la série Z de fou furieux, quoi.
J'ai pas eu cette chance.
Moi, j'étais sûr que c'était un chef-d'œuvre absolu et que je l'avais raté, mais bon.
Bah, le jeu est très bien, hein, honnêtement. Le jeu est très sympa. C'est un très bon beat'em all. En revanche, je sais pas parce qu'on l'a fait. Hein. Et l'histoire était tellement n'importe quoi, absolument ahurissante. Il s'était inspiré vraiment des films le film de Mortal Kombat avec Christophe Lambert. Et résultat, on a été obligé de. Enfin, moi, ce que j'ai donné comme référence en studio, c'est la version française de Ken le Survivant.
Ah oui.
Pour qu'on soit dans un esprit série Z assumé à fond. Et le résultat final, je pense, est assez.
Donc ils ont fini par accepter.
Voilà, c'est ça. On aura expliqué que ça fonctionnait. C'était une anecdote un peu longue. Mais en gros, on adapte.
C'est vous, Gears of War ?
Non, c'est pas nous. Mais en revanche, j'ai joué, effectivement, on est en pleine série Z.
Voilà, et avec pleinement assumé aussi. Du grand détournement et plein de choses.
Un grand détournement qui est revenu il y a peu dans le dernier Naruto.
T'es sûr que c'était Naruto ?
Voilà, oui, je suis sûr que c'est Naruto qui lui dit c'est le personnage, je sais plus comment il s'appelle, le gros, qui dit à Naruto on va manger des chips, t'entends ?
Ah, oui.
Des chips. Voilà.
Oui. Mais oui.
Et apparemment dans le dernier Celesto
Cosmic.
Celesto Cosmic, voilà.
Oui, oui, oui.
C'est toi ?
C'est moi.
C'est vraiment Celesto Cosmic de Gameblog.
Oui.
Quel clair.
Celesto Cosmic dans Battlefield Bad Company.
Et voilà, j'étais seul dans ma mansarde ce soir-là et je l'ai fait.
Quel
j'ai
talent.
Fait, je me suis dit, oui, bien sûr. Oui.
Ah, génial. Et écoute, maintenant ton défi désormais, sortir de ce podcast, c'est de placer un Celesto Cosmic par jeu traduit.
Ça va être compliqué.
Les éditeurs ne le sauront pas,
bien
évidemment.
Ça va être compliqué.
Mais en tout cas, merci pour ce petit ajout.
C'est normal.
Donc on a notre réponse. Parfait. D'accord.
Vrai, parce qu'en plus, on se posait la question la semaine dernière.
Oui. Les Wish Lorraine, c'était moi dans le premier Bad Company.
Quelle classe.
Mais bon.
Mais
voilà.
Il y a aussi les chips dans GTA 4.
Oui, dans GTA 4. Mais chez Rockstar, il y a des gens qui travaillent, des francophones en fait, qui travaillent chez Rockstar, qui eux, pour le coup, fait partie de ces éditeurs qui regardent aussi ce que font les agences de localisation. Et ces gens-là sont absolument adorables. Et c'est pas parce que je travaille avec eux que je dis ça. Et voilà, et on a une saine émulation, je trouve, autour du Grand Détournement.
De toute façon, tous les gens qui ont vu le Grand Détournement se connaissent les uns les autres par cœur.
Oui, voilà.
Une grande famille.
C'est ça. Ils se donnent tous la main. Pourquoi nos mains sont tout d'un coup. Mais effectivement, oui, il y a plein de petits titres comme ça qui donnent aussi une saveur au titre. Ça, les éditeurs, ils le savent, vous les tenez au courant, bien évidemment, en leur disant on va placer des références à des choses un petit peu connues dans notre pays.
Après, oui, voilà, mais après, c'est ça, c'est qu'on parlait de blagues intraduisibles ou de références qui parleraient absolument pas à un public francophone, comme ça arrive super souvent. On on fait, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on puise dans... bon, je vais chercher dans la boîte à grand détournement et puis on...
Bah, c'est vrai que c'est une belle manne à vanne.
On est obligé de chercher autre chose, soit des références françaises, soit... par définition, le grand détournement, c'est une référence française, quoi.
Maintenant, vous allez chercher sur Gameblog, c'est bien.
Voilà.
en tout cas, bravo pour les tombes.
C'est une référence française.
Bien sûr. Les tombes dans Red Dead Redemption, j'ai adoré.
Ah oui.
Toutes les petites blagues, parce que j'imagine que ça, c'est très difficile. Les blagues initiales en américain doivent être un peu différentes. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie l'une de nos questions de ces jeux qui donc ont opté pour garder les voix originales et quelque part, alors, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner en français, mais clairement, elles sont de très haute qualité en anglais et donc de garder uniquement des sous-titres, sauf à certains passages dans le jeu pour plus d'immersion, où c'est carrément inscrit dans les textures du jeu. Donc là, c'est un travail qui se fait peut-être un petit peu plus en amont encore.
Non, c'est simultané tout ça.
Et c'est donc les développeurs qui, pour le coup, créent les textures adéquates. Vous leur envoyez juste le texte qu'ils ont intégré et ils se débrouillent comme ça.
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais, c'est en échange encore une fois, c'est les glamours fichier Excel ou fichier Word ou fichier TXT aussi même parfois quand on a de la chance.
Et ça, c'est le développeur, l'éditeur, pour des raisons de coût, des raisons de volonté artistique, qui tranche entre les jeux qui seront totalement adaptés, voix et texte, ou ceux sur lesquels on va garder les voix originales.
C'est une question de politique éditoriale, en fait. Ça dépend des éditeurs. Je sais, par exemple, qu'il y a des éditeurs comme Rockstar qui sont très attachés à leur version originale parce qu'ils mettent beaucoup de moyens et qu'ils réfléchissent vraiment très longtemps à l'avance à faire un travail cohérent, encore une fois. Non pas que la France soit incapable de faire ce genre de... Enfin, ou même les autres territoires localisés, incapables de faire ce genre de travail. Le problème, c'est que tout de suite, tout devient plus compliqué quand on nous demande de travailler en deux fois ou trois fois moins de temps que le temps qui a, qui a été utilisé pour enregistrer les voix originales et surtout dans la... quasiment simultanée. Il nous arrive d'aller en studio alors que la version originale n'est pas encore finie d'être enregistrée. Quoi. Okay.
Et donc, du coup, j'imagine qu'il peut arriver souvent aussi qu'il y ait des révisions, ou des choses qui soient coupées au dernier moment, ou qu'il faille changer, réenregistrer, etc.
C'est ça. Et c'est... plus il y a une espèce de ping-pong comme ça, entre le texte, moins le texte est final quand il arrive chez nous, moins on a une unité. Quoi. Enfin, plus il y a de mises à jour, plus le texte risque de partir en morceaux, en fait.
Oui, évidemment.
Bah justement, Fred, puisque tu parlais de partir en studio, on va y rester. On va aborder maintenant la partie un petit peu plus vocale de la localisation et la traduction. Comment ça se passe, justement, cette partie au niveau, bien évidemment, j'imagine, du casting? Est-ce que maintenant, il y a un pool de comédiens, d'ailleurs, qu'on retrouve de plus en plus dans certains jeux, qui ont des particularités, mais est-ce qu'ils sont dédiés aux jeux vidéo? Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude et qui, du coup, connaissent mieux les méthodes de travail?
Alors, déjà, le premier truc que je peux dire, parce que même si ça va peut-être faire couler de encre électronique sur les forums, c'est que tous les comédiens, je le souligne, tous les comédiens sont des comédiens professionnels. C'est pas des gens qu'on trouve dans la rue.
tu dis ça pour des jeux comme Dynasty Warriors, par exemple?
Non, le type avec l'accent marseillais, il est incroyable. Je trouve
Capitaine avec l'accent cacao.
Il est fantastique. Mais je trouve pas. J'ai cherché à acheter ce jeu-là sur eBay et il est introuvable en fait.
Il est collector désormais.
Et il est pas non plus. Enfin bref, j'aimerais bien le trouver ce jeu-là.
Ah oui, c'était monumental. C'est un de nos plus grands souvenirs de doublage
carrément doublé par les inconnus, je pense.
Ah, c'était extraordinaire.
Ce serait vraiment très très chouette de pouvoir faire un jeu comme ça, vous imaginez, assumé comme ça, mais c'est pas possible parce qu'après il faut le vendre.
apparemment c'était une demande de, avant de refermer cette parenthèse Dynasty Warriors, c'était une demande de, c'était donc Koei. Qu'en fait,
grand animateur.
Dans le jeu, original, il y avait des accents selon les régions, et donc ils disaient voilà, bon bah pour la France, il faut que vous trouviez différents accents typiquement français pour représenter un peu, voilà, pour bien mettre en valeur que les gens viennent de régions différentes, etc.
Putain. La fausse bonne idée.
Bon bah on a l'accent marseillais, l'accent.
Je vais t'attaquer.
Mais d'ailleurs, c'est parce que le mec avait l'accent marseillais, ça s'entendait qu'il prenait l'accent marseillais. C'était pas un vrai marseillais.
Ouais, c'est ça qui rendait le truc un peu.
Seigneur Liu Bei.
C'est vrai qu'il y a des choses un peu incroyables, mais incroyables. horrible, mais vrai, pour les plus... Voilà. Bon, déjà, soit dit en passant, c'est pas l'apanage de la France ou des territoires localisés. Hein. Y a, si vous fouillez ne serait-ce que sur YouTube, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos où il y a les 50 plus mauvais doublages en anglais. Ouais, et les Anglais... Voilà, is that you, Jill? Et,
oh, no!
Wow, what a mention! Il y a des trucs fantastiques, quoi. C'est des... Ouais.
C'est cheesy, comme on dit.
Ah, c'est ultra fromagé, oui, tout ouais. à fait. Ouais, vraiment, là, on peut pas plus faire plus fromagé. Au Québec, on dit ça. Je pense.
Enfin, ouais, forcément, peut-être. On roule en char, là.
Mais on disait quoi qu'on
tu parlais des comédiens.
Oui, pardon, ils sont tous professionnels. Et en fait, le problème qu'on a, nous, à la trad du contexte, eux, ils l'ont au moment d'enregistrer.
Oui, alors c'est... évidemment, ils ont rarement, j'imagine, les images qui suivent.
Voilà, ça arrive, mais c'est rare. Et...
C'est le cas avec les jeux Rockstar, par exemple. Ils ont les cinématiques qui doivent
doubler. Ah, mais les jeux Rockstar sont pas doublés.
Oui, ils sont pas doublés.
Ah, oui, c'est vrai, merde. Je
c'est très bon exemple. Donc, c'est pas du tout toi qui les testes, les jeux Rockstar.
Je suis tellement toujours en VO.
Il
a
passé je sais pas combien d'heures.
Il est tard, les gens fatiguent.
Oui, c'est vrai.
Les cerveaux aussi.
Donc, je vais avoir du mal à répondre exactement à cette question. Okay. Mais ça arrive qu'il y ait des, il arrive qu'on ait des comment dire, des images, bien sûr. Ça arrive qu'on ait des références vidéo, mais c'est des références qui sont toujours du work in progress. C'est toujours des documents temporaires qui sont pas définitifs, sur lesquels on peut pas forcément s'appuyer totalement. Donc voilà, ça pose un vrai problème.
Donc en ce genre de cas, c'est toi qui es en studio avec les comédiens et qui les briefe sur la scène, ce qui se passe
Alors c'est moi ou le chef de projet audio, enfin la personne chargée de chapeauter le suivi du jeu enregistré. Voilà. Ouais. Mais voilà, effectivement, oui, les acteurs sont pas en roue libre, sauf peut-être notre ami marseillais. Mais non, les comédiens sont effectivement briefés précisément sur le. On essaie de faire au mieux avec le contexte qu'on a, donc c'est-à-dire en général assez peu.
D'accord. J'imagine que néanmoins vous avez les référents anglais pour avoir ne serait-ce que les durées qui doivent s'inscrire
parfois.
Parce que j'imagine que
c'est aussi
pas la lip sync.
En fait, précisément,
t'as une console, t'as une colonne dans ton Excel avec marqué la durée ou le nombre de.
Faire 2 secondes 25, accélère un petit peu. Il le faisait comme ça en américain.
Ça peut. Alors. Il arrive souvent qu'on ait des références audio, effectivement, ce qu'on appelle l'audio base, en fait. Donc, c'est une base de données dans laquelle il y a l'intégralité des voix enregistrées anglaises. Mais précisément parce qu'on enregistre, enfin, on travaille très souvent en simultané avec les US ou l'Angleterre, c'est pas définitif. Donc, très souvent, il y a encore une fois, il y a du ping-pong et il arrive aussi qu'on aille en studio alors qu'on n'a aucune référence.
Mais comment vous faites ?
Bah voilà,
on se démerde. Écoute, on se démerde.
Ah voilà,
c'est comme bah, si
ça explique. Je pense que ça
du mal à comprendre pourquoi il y a eu tant de progrès ces quelques dernières années.
Parce qu'ils se démerdent de mieux en mieux.
Dans, voilà, dans l'âge de pierre de
mais
de
c'est
la
dingue.
De
moi, je pensais vraiment que vous aviez plus que ça, quoi.
Ben non.
C'est fou.
Non.
On rappelle un peu comment ça se passe au cinéma, parce que c'est intéressant.
Ah bah oui. Au cinéma, c'est pour commencer, ils ont
le film.
C'est ça.
C'est une bonne base.
Voilà, c'est ça. C'est que la personne qui traduit et qui adapte en fait le texte au mouvement des lèvres, j'ai pas besoin de
la labiale.
Voilà.
Si tu peux.
Synchronisation labiale. Et c'est pas la personne a le film en entier. Alors parfois, effectivement, oui, ils ont peur du piratage aussi dans le cinéma. Donc c'est sur un écran, c'est gros comme un timbre poste.
Un logo gigantesque au milieu, mais ça,
voilà, au moins ça suffit, quoi.
Ils ont un contexte, c'est-à-dire ils ont le début du film, ils ont la fin du film, ils ont tout au milieu du film.
Et puis même les textes pour les acteurs sont écrits
à
main,
sur une bande rythmo,
voilà.
Et ça, c'est tout c'est un artisanat aussi, et c'est un travail super intéressant d'adapter le texte traduit à l'ouverture l'aperture des bouches, en fait, comme on dit, et ensuite donc le comédien travaille à la fois avec la bande rythmo qui défile, qui est calée, la bande rythmo défile est calée avec le film au-dessus. Donc c'est dans les meilleures conditions possibles, puisqu'ils ont les références visuelles, ils ont le comédien qui doivent doubler à l'écran, ils peuvent aussi se mettre quasiment dans la peau. Ouais. Effectivement.
Qu'est-ce qui nous sépare de ça? Parce qu'on compare toujours et de plus en plus le jeu vidéo au cinéma, en termes de moyens, en termes de côté blockbuster et compagnie.
Voilà.
Est-ce que dans ce domaine-là, qui est la localisation, traduction et les voix, est-ce qu'on visiblement on s'en rapproche pas encore exactement, mais ça arrive, vous sentez des signaux?
Ça peut arriver, effectivement. Je connais des jeux sur lesquels on a travaillé, pour lesquels on avait toutes les références vidéo qui étaient finales. Mm-hmm. Je sais.
Donc tu peux pas donner le nom.
Non, pas directement.
D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fred était comparse chez Around the World. Vous êtes en train de travailler sur des très gros jeux, dont certains blockbusters qui vont arriver. Dans
voilà, années. C'est voilà. Ça.
Mais donc nous ne pouvons parler là.
Voilà, mais bon, on reste détendu. Hein.
C'est ça.
Il y a pas non plus un contrat sur ma tête. Je ne crois pas. Le truc qui se passe, c'est que. bah voilà, plou.
C'est une opération c'est spéciale.
C'est un petit peu. Qu'est-ce que je disais?
Une référence totale.
Oui, oui, peut-être au côté cinéma.
Oui, alors le côté cinéma, il y a des choses qui sont faites. Il y a des gens qui réfléchissent. Hein, c'est pas non
plus.
Il y a
des gens qui réfléchissent.
Il y a des gens qui réfléchissent pour la localisation et pour améliorer le processus pour que ce soit vraiment le mieux possible. Je pense que la solution, elle passe déjà par la traduction. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire aux éditeurs, ne serait-ce qu'un mois de décalage. Tu vois, en fait, le point de départ, c'est le principe de la sortie simultanée, ou quasiment simultanée, à 3 jours d'écart.
Donc toi, tu préférais que les éditeurs lancent les jeux localisés un mois après leur sortie.
Un mois, ça permettrait d'avoir, je pense, un mois, 6 semaines, d'avoir le jeu final, pas encore gold, ouais. Mais en tout cas le contenu verrouillé pour tout ce qui est contenu audio, tout ce qui est texte à l'écran, tout ce qui est blabla. Le texte est verrouillé et nous on travaille de manière plus simple et on travaille surtout en contexte. Voilà, et quasiment, et même pourquoi pas avec une bêta.
Ça se joue
bêta.
À si peu de temps finalement, je pense.
Ouais. Ouais, entre 30 et 45 jours, je te dis un mois et demi, je pense.
Alors moi, y a un truc que je pense, tu as pu voir et jouer, j'imagine, à Half-Life 2.
Oui.
Et je me souviens qu'Half-Life 2 était un titre, qui en fait, pour expliquer à ceux qui l'ignorent, avait mis en place une technologie qui permettait de synchroniser les labiales des personnages, donc le mouvement de la bouche, sur le fichier audio, quelle que soit sa langue, quelle que soit même sa durée, etc. Enfin, il y avait tout plein d'outils qui étaient d'ailleurs disponibles et qui le sont encore aujourd'hui,
oui,
pour les modeurs.
Encore, ouais.
Et moi, j'ai du mal à comprendre que, encore aujourd'hui, si longtemps après Half-Life 2, aucun autre développeur ne se soit
intéressé à
ce genre de technologie de manière à déjà limiter et automatiser tout
bien
cet
sûr,
aspect de,
bien sûr.
Des choses.
Ben, vous pouvez déjà, on peut se dire que les cinématiques qui sont pas synchronisées, c'est 95% du temps lié à des problèmes de communication ou des fichiers qui ont été modifiés ou retouchés au dernier moment, quoi. Parce que les gens qui travaillent en studio au moment d'enregistrer, ils font vraiment hyper attention pour que tout soit pile poil dans les clous. On rentre vraiment on se glisse vraiment on se glisse vraiment dans la voix de la voix anglaise, voilà, ouais. Pour qu'il n'y ait aucun problème à ce niveau-là, quoi.
Donc c'est à l'intégration plus tard qu'il y ait des changements
qui
sont
faits.
Voilà,
il peut y avoir des changements pour des raisons qui dépendent pas de nous et qui font que ben voilà, c'est trop tard. Voilà.
Tu sais qu'ils font ces changements, enfin qu'ils font l'intégration justement, c'est chez le développeur.
Ouais, c'est souvent chez le développeur. Oui, je pense que c'est essentiellement chez le développeur. Après, je crois qu'il y a peut-être des boîtes qui se spécialisent là-dedans parce que l'industrie elle tourne à plein régime. Mais je pourrais pas être plus précis que ça, quoi. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, Raon, sur Faceposer, c'est ça l'outil qui permet de caler. Bah, c'est tout simple en fait. Dès que dans la forme d'onde, enfin dans le fichier audio, dès que ça commence à parler, pouf, il ouvre la bouche. Dès que ça s'arrête de parler, pouf. Il ferme la bouche.
Mais il y avait ça allait même plus loin que ça. Il y avait vraiment
avec le A, le I,
voilà, il y avait vraiment une labiale correcte, c'est-à-dire que tu pouvais faire raconter les pires horreurs. Et c'est pour ça que beaucoup s'en souviennent d'ailleurs, parce que c'était très amusant de le faire, de faire raconter les pires horreurs au G-Man par exemple, et effectivement, il bougeait la bouche correctement. En fonction de ce qu'on lui faisait dire, même si c'était des très gros mots.
Des insanités. Voilà.
Laissez cet outil à Traz.
Voilà, et là, vous avez un monde de drôleries et d'humour qui sont bravo. Bien sûr. Hein.
On ferait un carton avec ça.
Oui, c'est clair.
Mais c'est quand même incroyable parce que même aujourd'hui, donc en dehors de même de la synchronisation, il y a des scènes cinématiques ou des scènes où effectivement tu vois des lettres qui bougent, puis le son s'arrête, puis ça continue, puis c'est des trucs, mais c'est horrible parce que tout ça, ça brise l'immersion au dernier degré. Et quand tu joues au jeu et que tu vois la voix qui part toute seule alors que le mec ne bouge plus la bouche, ça ça, aujourd'hui ça fait bizarre.
En tout cas, ce podcast permet quand même de tempérer un petit peu les ardeurs de certains joueurs sur les forums, etc., sur le fait que les pauvres traducteurs et localisateurs sont pas forcément les seuls, ou en tout cas ceux à blâmer, hein. Il y a effectivement une chaîne assez longue
et compliquée,
de compétences ou d'incompétences diverses et variées.
J'opte pour la première solution.
Voilà, pour vous visiblement en tout cas c'est clairement le cas, mais c'est vrai que le processus final de pose de ces voix, de ces textes, sont généralement faits par des gens qui ne maîtrisent pas cette langue là non plus.
Bah, c'est pas forcément...
Moi, tu me demanderais de poser des synchros en japonais.
Voilà, c'est aussi
le problème. Je voudrais bien le faire le mieux que je peux, j'aurais franchement du mal, quoi.
Bah, c'est le problème, en fait, on en arrive à la barrière de la langue, quoi. Donc, soit tu as un ingénieur du son pour mixer le jeu dans chaque langue, soit tu as un type qui fait ça en se calant sur le mixage américain. Et ce qui explique aussi pourquoi de très nombreux jeux français qui ont été doublés sont pas terribles en matière du mixage. Le mixage par défaut. On se dit, bah, vraiment, la voix, on n'entend pas bien, il faut vraiment aller chercher. Moi, je sais que systématiquement, je commence un jeu, je mets tout de suite en pause, je mets les options, je mets les voix à 100%, la musique
pareil,
à 50%.
Bah, voilà. Exactement. Enfin, peut-être pas 50%, mais je mets les voix vraiment.
Alors, attendez, j'ai pas très bien compris pourquoi là. Pourquoi
c'est le mixage.
Il y a un problème de mixage, en fait, parce que la personne qui s'occupe de chapeauter le mixage pour toutes les versions du jeu, pour la version originale, mais aussi pour les autres.
Pourquoi il sous-mixerait
Parce que je pense que c'est pas forcément sous-mixé, mais c'est mixé par rapport à la norme américaine, et les fichiers ont peut-être été enregistrés de telle manière que...
Mais si le mec, il change pas du tout le mixage... C'est ça que tu nous dis, en fait, il garde les
mixages américains.
Et que l'acteur français, par exemple, a une voix qui porte moins, bah t'es baisé, alors, en fait.
Voilà.
C'est tout bête.
Bah ouais.
c'est effarant, en fait.
Bah
c'est
oui,
que ça n'est pas mixé, en fait.
Non,
ça n'est pas remixé.
Non, c'est sous-mixé ou pas mixé.
Et est-ce que tous les éditeurs s'adressent à des boîtes comme Around the World, ou est-ce qu'ils ont parfois des localisations internes, des doublages internes, etc.?
Alors, je sais qu'effectivement, il y a des services internes, notamment chez nos amis de Nintendo.
Nintendo, voilà.
Qui a un service interne à Francfort. On peut les saluer d'ailleurs, saluons-les. Mais je crois qu'il y en a de moins en moins. Autant au début des années 2000, il y avait encore des services internalisés. Je crois que Sega aussi. Sega internalise ses localisations. Enfin, toute la partie traduction. Mais maintenant, ils font appel à des agences spécialisées de plus en plus, quoi.
Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper, parce que ça coûte moins cher? Parce que pour quelle raison, en fait, ils font de plus en plus de l'externalisation?
Je pense qu'ils y gagnent en temps et en argent, j'imagine. Et
équipe à demeure,
ouais, c'est ça,
365
ouais.
jours sur 365.
Voilà. Ou alors il faut être Nintendo, c'est-à-dire vraiment quelqu'un de très très gros.
Ils font parfois des pré-traductions aussi, non? Il n'y a pas des trucs comme ça? Parce que je me rappelle quand moi j'habitais au Japon, c'était en 2004, il y avait pas mal d'annonces pour les étrangers vivant là. Pour traduire des jeux, par exemple, chez Square Enix.
Mm-hmm.
Mais eux doivent aussi...
Eux aussi, je crois qu'ils ont un service interne.
Ah,
je dis une bêtise.
C'est ça.
Ouais,
c'est
ils ont un service interne, exact.
Ok. Simple question. Voilà.
Alors justement, puisqu'on a commencé à regrouper un petit peu à la fois la localisation, traduction de la voix et du texte, est-ce qu'on peut avoir des... Même si je sais que c'est compliqué, des données chiffrées moyennes de la traduction.
12.
Alors par exemple, je sais pas, sur des jeux un petit peu où il y a quand même pas mal de texte, hein, sur un Red Dead, un GTA, c'est combien de temps de travail de traduction? Juste pour commencer à se rendre compte.
C'est l'exemple extrême là, non?
Justement, pour qu'on s'en rende compte.
GTA, je dirais que c'est des mois de travail.
C'est plutôt 6.
C'est plutôt
6. 6 mois.
C'est plutôt 6 mois. Et récemment.
Pour combien de personnes?
GTA, c'est pas doublé, Raon. Donc tu te souviens.
Oui, juste pour la partie texte.
C'est rentré.
La partie texte, c'est trois personnes quasiment à temps plein, ouais.
Pendant 6 mois.
Ouais.
Ouais, donc
et encore, là, je parle à l'échelle de l'agence de localisation. Parce que derrière, c'est ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Indépendamment des gens qui font du super bon travail chez l'éditeur en tant que tel, il y a un service de vérification, approval, appelez ça comme vous voulez, qui vérifie. Parce qu'eux, ils ont le jeu en bêta sous le nez en permanence. Ils intègrent dans la dernière version.
Tu peux dire build.
Bon, si on peut dire build, alors c'est cool. ils intègrent les traductions qui ont été demandées, ouais, et ils voient tout de suite si ça colle ou pas. Aussi parce qu'on avait des petits manques de contexte, on disait je dirais qu'il faudrait plutôt traduire ça comme ça.
Vous mettez un petit warning à certains endroits où vous dites on ne sait pas trop par rapport à ce que vous voulez dire.
Alors nous on essaie de poser des questions au maximum pour essayer d'avoir un texte qui est tranché, quoi. Il n'y a rien de pire qu'une traduction qui est floue, parce que ça arrive aussi, c'est ce qu'on a reproché à la traduction, un texte flou parce que on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on
Donc tu préfères pas te mouiller plutôt que pour éviter de faire une grosse erreur.
Si tu t'engages dans une voie qui est complètement fausse de traduction pour essayer de trancher.
Et t'engages le joueur du coup aussi quelque part.
Voilà. Ouais. Après, effectivement, on peut parler des erreurs de traduction qui ont posé problème, enfin qui empêchent de jouer, quoi.
Va chercher l'homme que tu trouveras au nord de ce village. Bon, dommage.
Ah, merde, c'était le sud, ouais. Non, mais ça c'est en plus c'est pas une anecdote que tu sors comme ça. C'est arrivé dans je sais plus quel jeu, ça.
Ah, je sais pas.
Ah bah il y en a.
Je me demande même si c'est pas dans un FF.
Ah ouais.
Ouais. Il y a eu une petite inversion de Point Cardino qui était un peu
ballot, ça.
Ouais. Mais il y a une petite erreur qui place comme ça.
Mais donc, c'est 3 personnes pendant 6 mois et ça représente combien de mots?
Je sais pas, vous fonctionnez 500, au feuillet c'est, ou... Alors, c'est pas au signe. Je sais qu'effectivement, les journalistes Toto, d'ailleurs, sont plutôt au signe. Nous, c'est plutôt au mot. Et je dirais que c'est 500 000 mots, peut-être.
500 000 mots.
Je crois que Red Dead, c'est 600 000 mots.
600 000 mots.
Ouais.
Ça représente combien de feuilles, ça,
oh là là.
Si on devait en faire
ça
un
dépend
livre.
Si t'imprimes en grand ou en petit.
En Arial 12, Core 4.
Non, c'est gigantesque.
Non, c'est bouquins de plusieurs centaines de pages.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est un travail colossal.
Oui, bien sûr.
Mais là, on est dans les cas extrêmes, quand même, on est d'accord.
Oui, bien sûr. Oui. Mais il y en a de plus en plus. C'est peut-être aussi un début de réponse. Pourquoi on a l'impression. Ouais.
Si on prenait un jeu, on va dire qu'a priori, il est peut-être un peu moins prolixe, un Call of Duty, on situe.
Je pense que ça doit tourner comme ça, de tête, sans avoir le chiffre, je dirais qu'on doit tourner autour de
au moins 10 fois moins, hein.
Au final je dirais 80 000 mots peut-être, 100 000 mots.
Et donc c'est quoi, c'est 2 mois de travail?
Non, c'est assez long en fait, le travail là-dessus. Je dirais que c'est 3-4 mois. Ouais.
3-4 mois, ouais. Ouais. Toujours 3. Vous fonctionnez souvent par équipe de 3 personnes ou c'est, là, c'est...
Non, ça dépend en fait des projets. En fait, ça dépend de la taille du projet, de l'organisation. C'est propre à chaque projet, quoi.
Il n'y a aucun développeur, éditeur, qui met en place des outils de son côté. Je pense par exemple à des outils peut-être réseau sur un réseau VPN ou des choses comme ça pour que vous puissiez vous envoyer vos trucs au fur et à mesure et que ça revienne vraiment d'une manière beaucoup plus fluide que juste de s'envoyer des mails avec des fichiers.
Si, il y a des outils qui sont mis en place. En revanche, les outils sont de plus en plus performants. En revanche, le point de départ ça n'a pas résolu le problème initial, c'est-à-dire le contexte qui manque toujours et l'unité en fait du bien culturel qu'il faut traduire. Si
eux, ils le connaissent a priori en général, ce contexte. Alors, est-ce que les développeurs sont verrouillés par les éditeurs qui leur disent ne révélez pas l'histoire,
Ça arrive, ça. Effectivement, il y a des gens qui, effectivement, donnent des réponses évasives, alors que précisément, on a besoin de réponses précises pour une traduction. Et on n'a pas de réponse parce que ça pourrait apparaître sur internet. C'est incroyable. Enfin,
évidemment, on se doute bien que vous avez des contrats de confidentialité vous signez pour un jeu.
Oui, tout à fait.
Et que donc c'est la mise en danger de la boîte et de votre boulot si ça arrive. Donc
ouais,
vous êtes comme nous journalistes, on a aussi des NDA. Je veux dire, si jamais on fait des conneries, on paye le prix directement, ouais. Quoi. Donc c'est marrant qu'ils soient aussi parano finalement.
Ils ont peur de pas tout contrôler, je pense que c'est ça. Et
c'est propre de la paranoïa quand même.
Oui, voilà, c'est ça. C'est éminemment Internet 2.0, je trouve, perso. Et donc, pour en revenir à ta question concernant. C'était sur Call of Duty, je crois.
Le temps que ça représentait, ou t'as globalement.
J'ai un peu 3-4 mois, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et oui, en fait, si, les outils sont de plus en plus performants, si. Mais le point de départ, c'est ça. C'est qu'on n'a pas. Je te dis, donnez-nous 6 semaines de plus. Décalé de 6 semaines, en fait. C'est juste décalé de 6 semaines la sortie.
Mais justement, le problème, c'est que si je t'écoute bien depuis le début, c'est justement ce qu'ils ne veulent pas.
Oui.
Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt décaler les sorties mondiales et donc américaines, sauf qu'on sait que le marché américain aujourd'hui représente la plus grande capacité financière d'achat des jeux. C'est là où ça se vend
c'est le plus grand marché mondial.
Exactement. Donc, est-ce que ça peut arriver ?
Il n'y a aucun éditeur qui décale sa sortie américaine, c'est-à-dire qui prévoit une sortie mondiale suffisamment tardive par rapport au bouclage réel du jeu pour permettre justement d'avoir...
tous les jeux se ressemblent pas, mais je ne pense pas. Enfin, après, les éditeurs ne disent pas OK, les mecs, continuez à bosser. On vous a entendu, on va décaler la sortie mondiale de 6 semaines.
Non, mais peut-être que certains sont suffisamment intelligents pour prévoir le processus de localisation de manière à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour le faire dans les meilleures conditions.
Ils essayent de faire au mieux. En revanche, je pense que, en fait, c'est le développement, c'est la manière. Enfin, dès que tu veux faire quelque chose de simultané, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est la différence que tu peux avoir entre de l'interprétariat, enfin, une traduction simultanée, c'est un type qui traduit directement, donc la personne qui traduit, qui interprète.
Il y a toujours même un décalage dans ce cas-là.
Ça va être, même s'il y a un décalage, ça va être quelqu'un qui va. Bah, les phrases vont être un peu heurtées, tu vois, ça va être quelque chose d'oral, ça ne va pas être sujet-verbe-complément. Mm-hmm. Et la différence entre une interview qui, une heure après, est traduite par quelqu'un, un traducteur, qui, une fois qui passe à chaud. Quoi. Mm-hmm. Et le fait de faire à chaud, on perd en bonne intelligence, en fait. On perd en intelligence à ce niveau-là, je pense. Enfin, c'est le passionné qui parle, que voulez-vous.
C'est, non, mais c'est, je crois, en tout cas, un avis qui est partagé par beaucoup de joueurs, en tout cas. Puisqu'on parlait tout à l'heure des dialogues, des séances d'enregistrement, est-ce qu'on a des stars de la voix de jeux vidéo
des
en
restars.
France? Est-ce qu'il y a des gens qui font mais 15 000 voix, et que peut-être, parce que généralement c'est le propre justement d'un doubleur, c'est de pouvoir moduler sa voix,
ouais.
qu'on ne s'en rend pas compte, mais qui sont dans à peu près tous les jeux?
Y a le doubleur d'Al Pacino qui est assez présent cette année, l'année dernière.
On l'a vu dans
J'irai le lait sur vos tombes.
Oui, c'est vrai, effectivement.
et j'ai vu qu'il taillait surtout la
dans Ken and Lynch, c'est
dans Ken and Lynch, dans Gears of War, dans Mafia 2, qu'est-ce qu'il a fait après c'est essentiellement ces voix-là qu'on a entendu.
Alors, en fait, les voix de gros bras, il y en a peut-être deux ou trois.
Il y en a toujours un personnage qui fait tous ces comédiens viennent du cinéma ou de la série, hein.
Mais alors justement, avec leur expérience, avec des conditions de travail on va dire un petit peu plus aisées, confortables, le fait d'avoir justement l'image, le retour, bon, d'être confronté là aux jeux vidéo, ils le prennent avec le sourire, avec le côté
vous êtes rigolo.
Il doit trouver ça moins.
Ça se passe comment?
Ça se trouve, il touche pas même le même cachet d'ailleurs.
Non, je pense pas que ce soit. Enfin, c'est une industrie un peu bizarre pour ça, en tout cas, parce que c'est naissant. Enfin, je regardais un peu des vieilles interviews du type qui doublait Ken le Survivant, donc Philippe Auguste, je crois, et le type qui doublait Nicky Larson. Maurice Sarfati, et qui disait qu'à l'époque, donc dans les années fin 80, début 90, quand on était en pleine vague Club Dorothée, les types c'était vraiment, ils prennent l'argent, ils se cassaient quoi. Ils s'amusaient parce qu'ils réécrivaient et ils improvisaient aussi beaucoup.
Ah bon? Les blagues et compagnie, c'était pas dans le texte original.
Alors là, c'est dommage. Hein. Ouais. même si, quand ils parlaient, tu t'apercevais que ces types-là disaient, mais dans Nicky Larson et aussi dans Ken le Survivant, il y avait aussi beaucoup d'humour quoi, c'était pas que du premier degré, il y avait aussi parfois des petites pointes de série Z quoi, et c'était assumé en japonais.
C'est
vraiment
pour ça que c'est devenu culte aussi chez nous.
Et donc en fait, je pense pas que ce soit le même état d'esprit, mais en tout cas voilà d'où je pense que le jeu vidéo et le doublage de jeux vidéo vient aussi de là, c'est-à-dire du doublage du dessin animé, qui est un produit de consommation courante, notamment dans les grandes années glorieuses de la 5 et du Club Dorothée. On n'en est pas là, je crois, dans le jeu vidéo.
Ça les dérange pas.
Si, bien sûr que si. Ils sont frustrés. Ils s'en plaignent. Mais tu vois, au même titre que nous, on est frustrés de pas pouvoir donner le plein potentiel de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on voudrait faire sur tel ou tel
et
jeu.
Et quand vous plaignez, excuse-moi, Julien, vous plaignez justement, parce que j'imagine, merci, que vous êtes en prise directe avec ces éditeurs, etc., avec les gens qui travaillent avec vous. Quand vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça ? Et j'imagine que vous trouvez parfois des solutions très simples à mettre en place ou des choses pour améliorer tout ça. Quel est le retour que vous avez? Est-ce qu'on vous dit oui, non, mais là on n'a pas le temps, oui, non, mais là on n'a pas le budget, ou est-ce qu'on vous fait botter en touche, ou est-ce que...
Ça botte en touche essentiellement, parce que ça, c'est une industrie, mais au sens plein du terme. Ça tourne à plein régime. C'est que un jeu chasse un autre. Enfin, ne serait-ce qu'en tant que joueur, en tant que... Je sais pas consommateur, mais en tant que joueur, vous vous en êtes certainement rendu compte que depuis, je sais pas moi, la mi-2000, la moitié des années 2000, ça tire dans tous les coins, quoi. Ne serait-ce que sur le marché français, en plus. Parce que si, en plus, t'achètes des jeux à l'import, c'est de la folie furieuse. Mais
Si le marché, c'est quand même globalisé et que...
Bah, il s'est étalé sur l'année, d'accord, mais c'est, il y a quand même au fin des années 90 ou même dans les années au début des années 2000, il y avait des périodes creuses, vraiment, où tu disais, bon, bah, je suis en train de refaire un vieux jeu parce que j'ai envie de me refaire un vieux jeu. Et il n'y avait rien. Là, ça tire dans tous les sens. Ne serait-ce que, enfin, je me pose la question, pour tester les jeux, c'est furieux. Hein.
Oui, oui.
Alors, on a donné la réponse dans un précédent podcast, ce qu'on appelait le courrier des lecteurs, où des gens nous disent, mais comment vous faites pour avoir des vies normales? Mais on n'en a pas.
Voilà,
on n'en a pas. Voilà, c'était la réponse qu'on donnait. Globalement, c'est effectivement, oui, les journées sont un peu longues.
Ça part dans tous les sens, et c'est pareil à notre échelle aussi.
Donc, en fait, tout le monde est toujours tendu.
tout le monde est tendu, voilà.
Ouais. C'est ça. Un peu comme
on va avoir un nouveau décor.
Et du coup, Around the World, c'est une boîte qui a beaucoup grossi ces dernières années. Alors.
Oui, c'est une boîte qui a grossi. Ouais, voilà.
Vous êtes combien aujourd'hui?
On est une quinzaine.
Une quinzaine.
Et juste pour la trad. Et pour l'audio, on est une petite dizaine.
D'accord. Voilà. Donc une société d'une trentaine de personnes. Tous fixes ou c'est des gens qui sont en intermittence ou
Tous fixes. Tous fixes, voilà, c'est ça. Okay.
Et vous n'avez pas de traducteur pigiste, entre guillemets?
Oui, c'est à ça, effectivement. Si c'est à ça que vous pensiez, effectivement, oui, on a des traducteurs missionnés.
Ouais.
Juste, je reviens là, sur la question que je voulais placer tout à l'heure.
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais pour mettre les pieds un peu dans le plat, justement, ces acteurs, ces doubleurs qui ont un petit peu de paillettes, enfin ils ont eu l'habitude d'être habitués à quelque chose d'un petit peu plus luxueux, on va dire, que les dorures un peu fanées du jeu vidéo. Ils font ça de manière un peu alimentaire.
Bah,
ils vous disent clairement, bon, bah si ça change pas, je reviendrai peut-être pas, hein. C'est peut-être la dernière fois que j'en fais parce que les conditions sont un peu chiantes, ou finalement c'est un peu leur zone de détente parce qu'il y a peut-être moins de contraintes aussi.
Oui, c'est ça, c'est que ça a été relativement sérieux depuis le début de cette émission. On se plaint beaucoup, voilà, et on dit qu'on travaille dans le noir. En revanche, c'est ça, c'est qu'on a beau être passionné, c'est quand même un métier passionnant parce que tu as une vraie marge de manœuvre pour la créativité, la place à l'imagination. Elle est vraiment présente à la fois dans le texte et ça n'empêche pas la rigueur, bien sûr. Et c'est aussi pareil pour les comédiens, pour les doubleurs, quoi, qui se font plaisir et qui s'amusent avec des personnages qui peuvent être des personnages de cartoon. Il y a des personnages typés cartoon, il y a des personnages qui sont vraiment très bien dessinés ou très bien écrits, qui sont vraiment intéressants à doubler, vraiment, et ils se font vraiment plaisir. Après, il y a des gens qui sont super connus, qui sont connus pour les joueurs. La voix de Lara Croft.
Elle est comment en vrai?
Elle a les cheveux longs.
Ouais. Ok, elle est gentille.
Elle est gentille. Non, je la connais pas personnellement.
À quel âge?
53 ans.
Non, mais voilà, parce que c'est souvent, c'est comme les jeunes garçons qui sont généralement interprétés par des filles, femmes, etc. On a des grands écarts comme ça entre les héroïnes ou héros virtuels et leurs doubleurs?
Oh bah ça c'est pas propre uniquement au doublage de jeux vidéo, hein,
mais sur des icônes un peu connues justement de nous joueurs.
Ah bah c'est le moment où je vais vous parler de la fois où j'ai déjeuné avec Marion Cunningham de Happy Days.
Ah yes, ça y est, l'instant émotion, l'instant anecdote.
Happy Days, tu viens de me toucher en plein cœur là.
j'ai mangé un sandwich avec Marion Cunningham et j'étais cerné par la voix de K2000 qui fait aussi, je me suis aperçu à cette occasion qu'il faisait aussi la voix de Futé. Futé dans
l'agence Touriste,
ouais. Et c'était super sympa.
Il avait une super voix, ce mec. Il parlait un peu comme ça.
Et alors, en revanche, vous faites super bien, hein, perso.
Oui, c'est pas bon.
Donc, oui, voilà. C'est
Giscard d'Estaing. Quand tu fais Giscard d'Estaing. Quand tu fais Giscard d'Estaing.
Voilà, ouais.
Je suis un très bon imitateur.
C'est
française.
Ah, c'est bon, j'adore ça, moi.
C'est qui ça déjà?
Et.
Je te dis avec un petit sourire.
Et ça aussi, tu vois, c'est une part de créativité et d'imagination.
Qui s'exprime 56 minutes de.
Un grain de folie.
Et donc tu déjeunais?
Oui, voilà, je déjeunais et c'est assez ahurissant quand tu te dis, je suis en train de manger mon jambon beurre avec Marion Cunningham qui te raconte des trucs super, vraiment hyper bateaux. Mais tu vois, c'est sa voix, quoi, et c'est elle. Et tu dis merde.
Ah, Fonzie, non, il est pas venu avec
et Fonzie était pas là. Fonzie était pas là. Je crois qu'il a arrêté le doublage. Et j'ai fait une blague avec Chachi, je crois, qui était assez drôle.
Avec qui?
Chachi, vous connaissez? Vous vous rappelez pas de Chachi dans? Chachi dans Happy Days, c'était le neveu de Fonzie, le petit jeune, et qui voulait draguer Joanie.
Oui, exact. Ouais, d'accord.
Il voulait draguer Joanie.
Ok.
Et voilà. Donc lui, il avait une voix de jeune, mais je pense pas que le doubleur était spécialement jeune. Mais effectivement, il peut y avoir de grands écarts entre des types qui sont gaulés.
Bon, t'as pas répondu à ma question, Lara Croft. Je suis désolé, mais je sais.
57.
57 ans.
Non, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas du tout. Non, non, je sais pas quel âge elle a, mais effectivement, elle a la voix qu'il faut, quoi. La voix d'Angelina Jolie. C'est la voix d'Angelina Jolie en français.
C'est vrai.
Voilà. Donc non, c'est
un bon système, parce qu'elle est arrivée par le jeu vidéo à faire du cinéma finalement.
À moins que ce soit l'inverse. C'est vraiment
Angelina Jolie, vraiment son décollage cinématographique, c'est Tomb Raider. Hein. Mine de rien, elle avait fait quelques films avant, mais la carrière, il faut pas oublier que c'est Tomb Raider qui l'a propulsé. Hein.
C'est vrai, ça l'a propulsé. Mais donc oui, effectivement, c'est rigolo de les rencontrer, parce que ne serait-ce que boire un café avec eux entre deux séances d'enregistrement, parce que ils ont des voix qu'on connaît, quoi.
Chérie, je te passe.
Ça va faire quand même super chelou, quoi.
Ouais, c'est génial.
Moi, je me souviens
de. Il y a le doc de
Retour vers le futur.
Ah oui.
Ouais.
Ça fait bizarre, parce que c'est des voix qui se sont ancrées.
Oui.
C'est comme alors Olivier Fallet qui travaillait avec nous à l'époque de Joypad. Qui connaissait le doubleur de Bart Simpson
et qui avait fait
enregistrer son message de répondeur.
J'ai rencontré Homer Simpson aussi.
Mais ça, c'est juste waouh. Wow.
Justement, quand tu rencontres Homer, il y a Marge qui est à côté, parce que c'est sa femme à la vie.
Véronique Augereau.
Ouais.
Véronique Augereau.
Alors justement, vous avez partie de nos questions. Y a-t-il une crise dans le doublage global français, et donc par ricochet sur les doublages de jeux vidéo?
Alors, il y a eu des. Je suis pas spécialiste non plus du doublage depuis des années. En revanche, effectivement, il y a eu un certain nombre de crises du.
Il y a une très grosse, notamment.
Du doublage. Voilà, à la
5-6 ans.
Voilà, environ au milieu des années 2000.
Parce qu'il faut dire qu'il touchait pas grand chose, ces gens.
Voilà,
c'est surtout qu'il touchait pas de.
Pour les
royalties.
Ouais. Ouais, c'est pour les rediffs, en fait. C'est surtout sur les rediffs. Et en fouillant un peu, tu t'aperçois qu'il y a eu une vraie grève similaire 10 ans auparavant, en fait, au milieu des années 90. Alors, cette fois-ci, on parlait pas d'Internet et de DVD, on parlait de cassettes vidéo. Mais bon, ça fait rêver, mais c'était comme ça à l'époque, et les types, c'est ça, ils touchaient apparemment ils touchaient rien pour tout ce qui était royalties. C'était une fois que c'était dans la boîte, c'était ou pour les reprises, quand les films étaient repris au cinéma, il y avait un souci. Donc ça, cet aspect là
ils n'ont pas du tout obtenu gain de cause au final.
Je crois que non, ça s'est pas très bien passé,
on a l'impression qu'à un moment de cette crise, ils avaient parce que moi je me souviens, et on se souvient tous en plus en tant que fan de Grand Détournement, des grands doubleurs de l'époque de ce cinéma américain là qui était particulièrement bon, toutes les voix des Clint Eastwood, des Burt Lancaster, enfin tous ces gens-là. Et on a l'impression que les doublages de cette époque-là, de ces films-là qu'on fait notre jeunesse, et ceux qui sont venus après, sont globalement moins bons. Qu'il y a des...
Est-ce que c'est de la nostalgie con?
Oui, je pense, j'ai l'impression.
Alors, il peut
aussi
y avoir la nostalgie
comme toi, hein, en tout cas.
Ah, moi, je suis d'accord.
Je pense, enfin, ça touche un peu à la nostalgie ou l'expérience personnelle. La manière dont on a raconté. C'est comme, en fait, raconter une histoire drôle. La première fois, la première fois que tu racontes une histoire drôle, ou quand on te raconte une histoire drôle, si elle est bien et qu'elle est réussie, c'est vraiment fandard. Et tu te souviens vraiment de cette expérience-là.
Ah, et j'en ai une bonne. Alors.
et en revanche, quand on te la raconte une deuxième fois, en fait, ça fait référence à ce premier souvenir et tu te dis, ouais, enfin, ça m'intéresse
pas
vraiment. Ça t'intéresse vraiment beaucoup moins et où tu en as un peu rien à foutre. Et ben là, c'est un peu pareil pour le doublage, c'est-à-dire que quand on te racontait une histoire doublée en français d'une certaine manière, tu y es attaché, en fait, parce que tu t'es intéressé, tu t'es projeté dans cette histoire, tu t'y es vraiment intéressé, il y a eu peut-être de l'identification. Mm-hmm. Et ensuite, si tu essaies de le revoir plusieurs années après ou tu le revois
c'est pas le même
VO, le soufflet retombe, en fait, où ça fonctionne pas du tout.
Mais j'arrive pas à me débarrasser, moi, de ce sentiment de. J'ai comme l'impression qu'il y a eu une charge.
Tu parles de la coupure,
il pleure.
J'ai l'impression qu'il y a eu un moment, effectivement, où ça a viré à des doublages qui n'étaient pas faits peut-être de la même manière ou avec les mêmes personnes, avec la même optique.
Ce qui est sûr, c'est que suite à la crise, je sais pas si vous vous souvenez.
Et c'était après la crise.
Moi, je regardais Friends à l'époque.
Les voix ont changé.
Et ils ont changé toutes les voix, sauf peut-être une ou deux, des mecs qui ont décidé de continuer, même sans se faire payer plus, etc. Et c'était, mais alors, perturbant. J'ai mis toute la saison à m'y habituer. Voilà. C'est vraiment perturbant.
Mais il y a des grands personnages, genre des Harrison Ford, qui n'ont pas eu la même voix en fonction des films.
Bah, notamment, j'ai vu Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Bruce Willis qui a une voix quand même vraiment particulière en français, que je trouve géniale d'ailleurs. Il n'a pas la même voix au Québec. Moi, j'avais vu la version zone 1 DVD, donc avec les doublages québécois. Et j'ai juste pas pu regarder le film, c'était impossible. D'autant qu'on m'avait raconté la fin. Donc on m'a vraiment pété le film, total. Non, il y avait ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, non, on parlait de la nostalgie. Moi, je sais que les Star Wars, j'avais acheté le box Laserdisc à l'époque, et de la première trilogie. enfin la deuxième, deuxième. La première qui a été tournée quoi. J'ai pris en VO sous-titré en me disant bah au quoi je préfère la VO etc, et j'avais été tellement déçu d'avoir fait ce choix parce que pour moi Star Wars c'était bah la voix d'Harrison Ford aussi incroyable, ouais, voilà. etc, et je l'avais découvert comme ça et je m'étais attaché à ça.
Ouais. Ceci dit, ils n'ont pas forcément des voix si éloignées entre le français et l'anglais par rapport
ouais,
à
mais
Simpson,
c'est pas
par
pareil.
Exemple. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. C'est probablement super en américain, mais je suis tellement attaché. Voilà. Effectivement, on voit des.
Ah, mais les Simpsons, c'est en plus un cas très
ouais, mais ce qui est bluffant avec les Simpsons,
bon,
c'est qu'ils ont retrouvé les mêmes voix. Quoi.
Mais, ouais, mais
oui
Marge,
non,
par exemple,
oui
est vachement plus douce en français. Ouais. C'est vraiment.
Sur le timbre.
Elle est hardcore en américain. Je crois qu'ils se font 400 000 dollars par épisode, les doubleurs américains.
Ah, c'est pas
étonnant. Les Simpsons.
Il faut pas les
je crois. Il me semble que la version française des Simpsons a été désignée comme étant la meilleure
oui,
version étrangère.
Elle est
au
incroyable.
Monde.
Ah oui Matt Groening, ouais.
Je sais pas par qui, par Matt Groening.
Matt Groening, ouais, qui était passé bah, là pour l'anniversaire en France. Pour le DVD Super Collector, toi aussi achète-le, il est jaune.
Ouais.
Effectivement, c'est ce qu'il avait dit. Dans tous les autres pays, il fait. Hey,
ouais, ouais, c'est ça, il fait la même partout. La version russe, c'est vraiment la meilleure.
Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est un peu plus dur de glisser ce genre de truc.
Ouais, oui, c'est vrai. Bah, pour la petite histoire, moi j'ai eu un mail de Tim Schafer il y a quelques temps qui pour ouais. Voilà Brutal Legend qu'on a fait et qui disait qu'il adorait, il était super fan de la voix de du grand méchant dont je peux pas révéler l'identité puisque sinon c'est un méga spoiler je crois. Et il disait qu'elle était géniale et qu'il avait adoré la version française pour ça. Et qu'elle faisait encore plus peur que ce qu'ils avaient choisi en anglais quoi.
Ouais.
Donc vraiment il était super content quoi.
C'est marrant qu'ils le découvrent comme ça.
Juste devant dans cette petite période anecdote, est-ce que t'as d'autres petits comme ça, petits moments qui font que justement ça rend ces localisations, ces traductions un petit peu aussi excitantes pour les passionnés que vous êtes de
bah,
vidéo.
Écoute, je pense qu'il est tard, on peut en parler maintenant, le CSA posera pas de problème.
Surtout non. Que les gens peuvent l'écouter à une heure de
tout le soir. Tu parlais d'excité, bah, je peux parler du jour où j'ai découvert le Hot Coffee en fait, passé juste sous les yeux. Là c'est un souvenir de traducteur, mais donc ça fait il y a quelques années maintenant, et dans les textes qu'on avait à traduire, il y avait le Hot Coffee. Donc,
juste pour resituer, parce qu'il y
donc,
en a
non, mais ça veut dire la même chose non, par rapport à ce qu'il disait, genre non, c'est pas censé être dessus, et machin, etc. C'était quand même traduit.
Alors,
donc c'est dans GTA.
Vous l'avez traduit finalement
ou pas GTA San Andreas.
Oui,
c'est traduit, mais ça peut être un.
Et c'est une scène
ça peut
de
être intégré,
sexe,
je crois.
C'est ça, c'est qu'elle a été désactivée en fait des versions
mais
finales.
Mais elle était bien
mais
sur les disques.
Elle était sur les disques, évidemment, toutes les données étaient là, et on pouvait donc déverrouiller cette scène moyennant quelques manipulations.
Oui, bas, gauche, droite, X, X, A, B, Z, diagonale, bas.
Voilà, c'est ça.
Un truc comme ça.
Et donc effectivement, c'était une scène de fesses. Ouais.
Voilà, et donc quand on demande. Parce que c'était une scène de fesses, mais c'était une scène de fesses interactive, les amis.
Oui, oui, bien
ce
sûr.
Ce qui fait que ben, nous, ce qu'on devait traduire, c'était relativement explicite. Quoi. Et,
ça donnait quoi Est-ce que tu pourrais nous.
Le jouer, bien sûr.
Ça donnait quoi ben, alors, écoute,
c'était vraiment trash
Non, c'était pas trash. Mais c'était.
Coquin.
Oui, c'était voilà, c'était amusant, c'était grivois, c'était ouais. Gaulois, voilà. Donc c'est pour ça peut-être qu'on l'a traduit.
C'était rablésien.
c'est pour ça qu'on l'a traduit parce que c'était gaulois. Donc c'était assez étonnant parce que il y avait rien qui pouvait prévenir ça, quoi. On s'attendait pas du tout. Et je vois le truc arriver, je fais mais qu'est-ce que c'est
Est-ce que c'est une vanne ou est-ce que c'est
génial.
Vraiment dangereux
ouais,
ou...
voilà. Et enfin, de toute façon, ce projet-là, c'est un de mes projets préférés parce que l'histoire est géniale, mais surtout. Tu voyais le jeu arriver par petits bouts et tu voyais les types qui rajoutaient des trucs et des trucs et des trucs, et notamment en fait tout ce qui était caractéristique du jeu quoi. C'est-à-dire que tu voyais tu peux parier sur des chevaux. Tu dis mais mec, c'est quoi ça? Tu peux jouer au billard, tu peux prendre n'importe quel. Enfin maintenant ça paraît évident parce que le jeu est sorti.
Ouais
et
mais
même,
San Andreas c'était quand même gigantesque. Hein. C'est le GTA
et
le plus.
Les radios sont pas traduites dans
non,
GTA.
Non non,
j'ai jamais compris pourquoi. Parce que moi, il y a plein de vannes et plein de trucs rigolos dans les radios, et ils devraient activer des sous-titres sur les radios.
Tu peux, il y aurait trop de sous-titres.
Ouais, il y a beaucoup de pistes. Ouais.
Tu t'en sors pas.
90 heures d'audio,
tu t'en sors
et puis
pas.
Et après, quand tu traduis un GTA ou un Red Dead, ça doit être tellement énorme.
Si tu
en
as,
ça doit être le plus passionnant à traduire, effectivement.
Tu peux. Le problème, c'est que tu peux juxtaposer de l'audio, mais tu peux pas juxtaposer des sous-titres. Ou ça devient compliqué.
Voilà, tu
ah oui, oui, parce qu'il parle pendant les.
Bah
oui,
oui,
exact. Oui, c'est compliqué.
Et puis, c'est pas simple, quoi. Mais donc
c'est dommage.
Oui, c'est dommage
de pas avoir ça.
C'est...
D'autres petits souvenirs comme ça sympathiques
qu'est-ce que j'ai
ça peut être des moments de vie au sein de Round the World
Oh, bah, des moments de vie on essaie de vivre hein. tant qu'à faire tant qu'à faire. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin?
Vous avez commencé à traduire Shenmue 3 ou pas? Juste
pour, punaise. Le jour où je...
Merci.
Le jour où le jeu est annoncé, vraiment, champagne, quoi.
Oui, et puis tu feras tout pour le traduire. Puis
ah ouais, clair. Mais tu vois, c'est ça, c'est que j'aurais presque des scrupules à traduire en français, ce jeu-là.
De toute façon, ils n'étaient pas traduits.
T'inquiète, il n'arrivera jamais.
Oh non, dis pas ça. Non, arrête.
Non, c'est mais pas drôle, en plus, j'aimerais bien qu'il arrive. Mais
non,
bon,
non, mais là, tout est en route, là. Il y a un petit jeu sur mobile, d'abord, sur PC au Japon.
T'inquiète.
On teste le marché.
Il l'a rêvé pas plus tard qu'hier et c'était un rêve
monétaire. C'est vrai?
Non.
J'en rêve tous les jours ou pas?
Bah, j'y croyais il y a un an, mais là, je.
Ah, il faut continuer, hein, tu sais. Il y a Duke Nukem qui arrive finalement.
C'est vrai qu'après Duke Nukem,
tout est possible. Et Duke Nukem doit coûter moins cher qu'un Shenmue.
Ouais, certainement.
Enfin, ceci dit, au global, sur 12 ans de développement, je pense que ça a coûté quand même beaucoup.
Ça coûte plus grand chose de faire un Shenmue aujourd'hui.
C'est sûr.
Oui, voilà, le moteur est un peu.
Bah oui.
Est-ce que pour à peu près conclure ce podcast, est-ce qu'on peut parler aussi de la vision? Parce que là, nous, on a eu notre vision française, c'est vrai.
Pardon, je repense à une photo, justement, il y a un mec qui a posté sur le forum, je sais pas quoi, pour expliquer le retard de GT5. Ouais. Tu vois une photo de GT5 en bagnole, et puis quand tu zoomes derrière le pare-brise, tu vois que c'est Duke Nukem. C'est pas ça génial.
Voilà. C'est pas mal. Oui, donc on a nos visions franco-françaises, les Français sont des gros râleurs, on n'est jamais très contents.
C'est pas vrai, pourquoi tu dis ça?
Il y a effectivement des cas hallucinants, des traductions dans les FF7, les Dynasty Warriors, les Metal Gear.
Même tout récemment dans Fallout New Vegas par exemple.
Voilà, et qui peuvent parfois effectivement affecter le plaisir de jeu, mal aiguiller le joueur.
Tout à fait.
Clairement, ça a des impacts.
Faire sortir.
Il y a aussi des contre-exemples. Il y a un titre comme Soul River qui lui bénéficiait de très belles traductions.
Moi, il m'a particulièrement marqué. C'est vous?
Ouais, c'est nous.
Ah bah, il m'a particulièrement. Bah, bravo, parce que c'est, pour moi, ça a été un des premiers jeux à franchir un gap en disant on peut faire des choses bien localisées, et c'était bien localisé, bien doublé, bien joué, c'était vraiment.
Assassin's Creed, c'est vous aussi? Peut-être en interne, non?
C'est compliqué.
D'accord.
Okay.
Bon, pourquoi?
C'est compliqué d'en parler.
Voilà.
Très bien.
On en parlera autour d'un petit café. Voilà, il y a d'autres titres aussi. Moi, je pense au Uncharted. On a parlé aussi des Alan Wake et qui bénéficient quand même de voix françaises vraiment de qualité. Donc, c'est clair qu'il y a quand même des jeux qui mettent la barre haute, en tout cas qui n'ont pas à rougir devant les versions originales. Mais les Américains eux-mêmes se plaignent parfois.
Voilà, exactement.
Il n'y a pas que nous, franco-français.
Non, voilà, c'est ça.
On n'est pas les seuls à avoir parfois des traductions bof-bof, quoi.
Voilà, quand on prend du, quand on prend du recul, tu t'aperçois.
Enfin, pour vous, bien sûr, hein,
quand tu prends un peu de recul, effectivement, tu t'aperçois que les Américains
sont
râleurs également en ce qui concerne leur version américaine, pas précisément parce que c'est des versions localisées de jeux japonais précisément. Bah, si tu prends l'exemple canonique de Resident Evil 1 avec cette arrivée dans le manoir, mais il y en a plein d'autres, et notamment
Shenmue. D'ailleurs, ils rigolaient beaucoup de Shenmue.
Bah oui, il y a du
rire. Black car.
Non, mais il est fantastique. Le
I see.
C'est vraiment très très bon, ça. Et apparemment, il y a eu aussi toute une série de titres presque à la limite du nanar au moment de.
Non, continue,
au moment
de
la sortie de la.
Il se passe rien.
Continue.
Au moment de la sortie.
Les auditeurs ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Ceux qui ont la vidéo, c'est déjà une autre histoire.
Sur Saturn et sur Dreamcast, tout ce qui était House of the Dead, tous ces titres-là, il y a eu des titres absolument ahurissants. Enfin, encore une fois, je vous renvoie aux listes 50, les 50 jeux les plus mal doublés que tu trouves sur YouTube ou un peu partout. Les Américains aussi, ça les fait gueuler, quoi.
Et c'est le même système là-bas, c'est-à-dire que c'est aussi des boîtes externalisées qui localisent les jeux japonais pour le marché américain.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est à peu près ce système-là. Et ouais, il y a des titres aussi qui sont hyper casse-pieds. Ne serait-ce que des titres qui sont doublés en anglais, mais que nous on récupère en version sous-titrée. Je pense à Onimusha 2. Mm-hmm. Tu sais, Jubei, tu sais, avec la fille qui appelle Jubei, l'espèce de Jubei.
Ouais.
C'est énervant, hein. Voilà, c'était une version américaine particulièrement ratée, pas très bien castée, oui, c'est ça. Mais ces gens-là aussi travaillent en partie dans le noir. Enfin, en fait, quand ils traduisent des jeux du japonais vers l'anglais, bah, ils sont confrontés à nos problèmes à nous.
Et vous, derrière, vous traduisez en fait les jeux, pour les jeux japonais, les traductions américaines vers le français, ou alors vous prenez à la source le japonais vers le français?
Les deux cas de figure figure se présente dans l'industrie. Il y a quelques années, je pense que c'était ce qui primait, c'était vraiment une première traduction japonais-anglais. C'était l'occasion d'ailleurs de la peaufiner pour être vraiment sûr. En général, ce qui se passait, c'était Japon-Amérique. Donc là, tu avais un premier stade, le jeu sortait aux États-Unis et après, ça sortait
mondialement.
Un petit peu après dans les territoires.
C'était traduit de la version anglaise.
Voilà, c'est
ce qui faisait que s'il y avait des erreurs déjà dans la version anglaise,
tu pouvais rattraper
le coup.
Ou tu répercutais les erreurs, effectivement. Donc c'est le principe de la traduction en cascade, c'est un peu
domino.
Pervers. Voilà, c'est
le téléphone arabe.
L'effet papillon.
On continue vite. D'autres synonymes là, de cette expression incroyable.
Non, ne me regardez pas comme ça. Je laisse pas tranquille.
Écoute Fred, est-ce que tu as des points que tu voudrais toi personnellement souligner?
Est-ce que tu veux que je souligne un point? Alors,
je ne sais pas, avec un stabilo, de la couleur que tu veux.
Ouais,
quelque chose qui te tiendrait à cœur.
Conclure sur
dernière question.
Sur ça, c'est-à-dire que le doublage, c'est aussi le doublage des versions françaises. Elles ont leurs défauts, mais souvent, il ne faut pas perdre de vue que le rapport qu'on peut avoir à un film, une série ou une télé, un film, une série ou un jeu, ou un livre aussi, c'est aussi un rapport intime qui est lié à l'expérience. Donc, en fait, ce qu'on voit fleurir sur les forums ou même dans des discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres, c'est en fait l'échange de points de vue individuels. Moi, j'ai préféré la version française, j'ai préféré la version anglaise. Toi, la version française, elle est nulle, etc. Jure que par la version anglaise. Bon, voilà, il y a de tout. Moi, j'ai beau bosser dans la loc, dans la traduction, je sais que je regarde essentiellement ce qui passe à la télé ou les films en VO sous-titré, ou alors uniquement par curiosité. Après, il y a une position qui n'est pas vraiment tenable, je pense, qui est de vouloir passer de l'une à l'autre. Qui serait de vouloir à mi-parcours dire tiens, je vais tester un peu la version française, voir ce que ça donne, quoi. Ou même à l'inverse, quand t'as commencé en français.
Mais c'est ce que je fais toujours quand je teste les jeux.
C'est super dur. En fait, c'est comme raconter une deuxième fois une blague. C'est comme quand on te raconte deux fois, tu te dis bah ouais, mais c'est un peu affadi.
Mais je fais ça en fait, c'est très simple. Hein, c'est que d'ordinaire, moi je consomme plutôt en VO, même en série télé ou en cinéma.
Ouais.
Et j'ai tendance à penser que de base, c'est souvent pour les jeux en tous les cas anglais, hein, parce qu'après pour un jeu japonais c'est différent. Mais si je pouvais jouer en japonais sous-titré, je préférerais jouer sans japonais sous-titré. Mais en tous les cas, donc la plupart des jeux c'est quand même de l'anglais. Et je préfère, je me dis, ça sera la version originale, donc c'est a priori celle que voulaient faire les développeurs.
Oui, tout à fait.
Mais je suis obligé aussi de jouer en français pour évaluer un minimum, et c'est le cas pour tout le monde qui fait de la critique. Ici ou ailleurs, estimer la qualité justement du travail de localisation. Donc en général, je commence comme ça. On s'en aperçoit relativement vite. Est-ce que les voix sont plutôt bonnes? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur massive de trad? C'était le cas pour Fumble par exemple, qui m'a, je me souviens, il m'a supplié par MSN, je peux le mettre en anglais s'il te plaît, je comprends rien, il y a des erreurs de trad de ouf, etc.
Ouais.
Et finalement, il a remis son jeu en anglais après et ça a été mieux. Et mon perso, ça m'a jamais vraiment gêné. J'ai pas eu le temps de m'habituer finalement, je pense, aux voix françaises avant de retourner sur de la VO, quoi.
Mais je pense que c'est bon, après ça c'est ce que j'en pense moi, c'est une position qui est une position qui est liée à mon avis à ton emploi ou enfin à ce que tu fais comme activité.
Oui.
Tu
ferais ça pour plaisir. Ouais.
Un joueur ferait pas ça.
Je jouerais de base en VO moi.
Mais un joueur choisira une des deux versions quoi. Donc la comparaison des deux versions, c'est un exercice qui est assez périlleux quoi. Il y a des évidences effectivement. Une voix est ratée, une voix est pas bien castée ou il y a un problème de trad, etc. etc.
Ou de synchro labiale.
Ou des problèmes de synchro labiale, c'est évident aussi. En revanche. Après, malgré tout ça, malgré ces petits défauts-là, qui sont des défauts qui peuvent être rédhibitoires, je suis d'accord, parfois, mais malgré ces défauts-là, on peut quand même te raconter une histoire et faire le pari de raconter une histoire et te laisser prendre par une histoire. Et en fait, je repense à ce que tu disais, Julo, quand tu postais sur Metal Gear Solid 1 et la version française.
Oui, parce que j'ai découvert la version française de Metal Gear Solid 1 en le retéléchargeant pour y jouer sur ma PSP récemment. Moi, j'y avais joué avec la version américaine.
On avait tous acheté la version américaine.
Chez Joy, on avait tous acheté la version américaine qui sortait bien avant la version française, évidemment. Et donc j'ai découvert là, et c'est vrai que j'étais très déçu.
J'avais pas lu mon test, j'avais fait un encadré énorme sur les voix françaises.
Ça m'est revenu en pleine gueule, justement.
Je trouve ça. Et là, il y a une nouvelle mode en ce moment de dire que c'est génial.
Mais justement, c'est ce que tu allais dire, je pense, c'est ça.
Ouais, c'est pas que c'est une nouvelle mode, c'est qu'en fait, ça dépend de la manière dont tu as, pour la première fois, reçu cette histoire.
Ah non, c'est pas possible.
C'est comme moi avec Star Wars.
Je t'assure que c'est.
Et comme nous avec Star Wars.
Justement, alors parce moi, que crois... en prenant ouais. la news, enfin le post de Julot à ce sujet-là, en disant ouïouïouï, j'ai mal à ma VF, et ben t'avais 4 pages de commentaires et t'avais des types qui disaient, je sais pas les proportions, mais qui disaient oui, effectivement, VF, oui, c'est pas bon. Et t'avais beaucoup de gens qui disaient ça me rappelle vachement de souvenirs. Et oui, il y a des erreurs.
Comme ça. Ils ont connu un grand moment.
Et ça reste un grand jeu.
Et ça reste un grand jeu, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est là où je voulais en venir. C'est que moi, je l'ai découvert en français. J'étais pas du tout dans la loc à l'époque. C'était un des rares jeux que j'avais acheté. Et en fait, effectivement, ça sautait à la gueule les erreurs
Snake
de trad,
était Rambo,
etc.
Il y avait aucune
casse, oui, bien sûr, le colonel était pas bon, etc.
Vous savez que Mantis c'était Mantis gay, je sais pas.
Je suis là. Tu vois, ça se discute.
C'était très bizarre.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce que faisait le type sur Sacco Mantis. D'ailleurs, c'est le même type qui fait le méchant dans Half-Life.
Il y a un truc intéressant d'ailleurs, c'est que le doubleur de Snake, qui parlait comme ça, colonel, il a refait le trailer de Metal Gear Solid 4, et ça tape vraiment, ouais. C'était vachement bien foutu. Alors,
parce
je sais
qu'il
pas
a pris
si
la subtilité du personnage.
Peut-être ça doit être ça. Ouais.
Il n'est pas allé mastoc.
Mais la voix de David Hayter, donc la voix originale américaine en l'occurrence, est quand même une voix un peu.
Que moi j'aime pas tellement.
Elle est un peu, c'est une voix de bourrin quand même.
Oui,
un peu, non,
hein, tout à fait. Oui. Si, ouais.
Moi ce qui me saoule plus, c'est les.
Ouais, ouais, non, il y en a trop.
C'est comme les. Dans Final Fantasy.
Voilà.
Mais effectivement, et là je te rejoins totalement, il y a parfois aussi une espèce de petit snobisme qui est que de base la VO est bien mieux, alors que c'est vrai que parfois, parce que ce n'est pas notre musicalité de langue, on a toujours l'impression ah bah oui, mais c'est mieux, c'est plus classe, alors qu'il y a parfois aussi des manques de subtilité. C'est vrai que sur David Hayter, je vous recoupe à peu près, je trouve que c'est pas toujours très subtil non plus.
Oui, voilà, c'est
mais
bien.
Encore une fois,
mais ça sonne classe parce que c'est américain.
Et parce que la voix japonaise est d'autant plus classe du coup.
Oui, mais voilà, c'est la meilleure voix de Snake, c'est la voix japonaise.
C'est la voix originale.
Donc tu t'en sors pas après.
Pour l'avoir rencontré, quand il vous parle comme ça, je peux vous assurer que putain, en plus il a la classe le mec.
Ah ouais. Il t'avait
continué. Tu me sens. Là, il est génial. Il assure. Enfin bon, là c'est un autre débat. Moi j'aurais une dernière question pour toi, Fred, pour ceux qui nous écoutent et franchement c'est un métier qui est passionnant et je trouve que tu l'as très bien représenté. Du côté vraiment purement factuel. Comment est-ce qu'on peut intégrer si on est intéressé par la localisation, par la traduction? Est-ce qu'il y a, quels sont les, je sais pas, les cursus, les choses comme ça?
Alors, comment t'as fait toi, par exemple?
Moi, il y avait un peu de lumière ce soir-là. Non, en fait, oui, moi aussi, c'est presque une anecdote. Hein.
Bah oui,
c'est, j'étais en train de faire des études donc de lettres. Mm-hmm. Donc, j'étais en train de préparer l'agrégation de lettres et je lisais Joypad.
Tiens donc.
À l'époque.
Quelle bonne idée.
Quelle bonne idée, n'est-ce pas? Et parce que j'avais pas tellement cours, il faut bien le dire. Et ne faites pas ça, les enfants, chez vous.
Non, surtout plus maintenant.
Non, c'est vrai.
Ils sont dans la rue. Hein.
En plus, ils sont dans la rue. Et j'ai lu un article sur la localisation de jeux vidéo. Un métier signé par
Tristan Ducluseau, qu'on salue au passage et qui travaille aujourd'hui dans la localisation aussi. Qui ont fait des gros bisous.
Gros bisous à base de Wurst.
Voilà.
Et il avait écrit un article concernant la localisation. Un métier que je ne connaissais absolument pas, qui recoupait deux de mes passions, c'est-à-dire la traduction, l'anglais et le français surtout. Et les jeux vidéo, c'est évident. Et après, à la lecture de cet article-là, je me suis dit, c'est génial ce truc-là. Je garde l'article sous le coude et si j'arrive pas à mes concours, franchement, j'envoie une candidature spontanée. J'ai pas eu mes concours et au mi-août, j'ai envoyé une candidature spontanée, j'ai fait un test, ils m'ont pris en stage et puis j'ai été embauché dans la foulée. Voilà.
C'est la classe.
mais dans l'absolu, à part, parce que ça, c'est particulier, mais qui est demandé?
Ce qui est demandé, c'est un excellent niveau de français et un excellent niveau d'anglais. Mais j'insiste sur le niveau de français, en fait. C'est ça qui est fondamental. Parce que à l'heure actuelle, tout va très très vite en matière de production culturelle. Donc les choses sont traduites parfois très 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 vite, même parfois par des fans, notamment tout ce qui est fansub. Ça va.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a beaucoup de fansub qui sont tellement passionnés et tellement bien, qui sont parfois meilleurs que certaines versions que tu peux avoir par la suite.
Ça peut arriver, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est souvent le contraire aussi.
Oui, voilà, la majorité.
Il faut le dire quand même.
Si on parle de lip sync, c'est pas toujours très bien synchronisé pour des problèmes divers et variés. Mais...
Oui, c'est vrai. Et j'ai perdu complètement ce que je disais.
Le cursus.
Donc
bien parler français.
Cursus littéraire.
C'était surtout sur la qualité du français. En
la
fait.
Qualité du français, oui, c'est ça. Il faut bien parler la France. C'est important. Et bien sûr, connaître les jeux vidéo. Parce qu'on a aussi affaire parfois à des gens qui connaissent bien la langue française, qui connaissent bien l'anglais, qui savent bien traduire, mais qui sont un peu
qui manquent le truc du coup.
Voilà, ils ont pas vraiment.
Ils ont pas vous avez pas de contexte. Alors c'est sûr que quand t'as pas le contexte, il vaut mieux bien connaître une série par exemple.
Ou même le jeu vidéo en général.
Oui, le jeu vidéo en général,
par certains codes.
Voilà, c'est ça. Ne serait-ce que tu vois un peu des habitudes, des traditions. Tu vois, Game Over, on parle de Game Over. Game Over, on évite de le traduire, quoi. Ça fait partie du truc, quoi. Tu veux pas t'amuser à traduire Game Over.
Il y a ce genre de débat, justement, en interne, sur des mots, genre,
on traduit pas. Oui, bien sûr. Bah, Game Over en fait partie, bien sûr.
D'autres cas
qu'est-ce que tu aurais aussi comme cas comme ça me vient pas spontanément, mais bon, tout ce qui est jeu d'arcade, effectivement, arcade un peu hardcore à l'ancienne, t'as effectivement ce genre de débat, est-ce qu'on traduit, on traduit pas,
insert coin,
insérer
la monnaie,
insérer pièce, non tu traduis,
ça dépend du public que vise le jeu, vas traduire différemment un jeu destiné au public vraiment grand public casual, et
voilà, ça aussi
paye ton crédit,
ça vous emmerde si on discute,
je crois que ça les dit non.
Donc oui, ça change quelque chose. Le public que vise
bien sûr, bien sûr, et c'est aussi le point de départ de pas mal de nos problèmes. Si on vise tous les publics, c'est-à-dire un public super large, ben les gens qui ont, je sais pas moi, 16, 18 ans ou les trentenaires dont nous sommes, faut le dire, pas tous, bien sûr. Pas tous.
N'est-ce pas Sophie
se retrouvent pas forcément dans la version française, précisément parce que je dis mais ça s'adresse pas à moi ce truc là on est obligé d'avoir une version française unique, donc effectivement c'est aussi pour ça que parfois,
ça serait
ça
bien, ça t'imagines choisir ta piste suivant ton âge.
Ah, ce serait rigolo, parce que nous aussi des fois on est obligé de retenir un peu le potentiel de ce qu'on pourrait traduire.
Ce serait rigolo, mais à la fois votre masse de travail serait encore multipliée.
Voilà, c'est ça.
Différents degrés de lecture.
Voilà, ce serait compliqué.
Et une question vraiment, une fois de plus, purement factuelle, en termes, en général, en termes de revenus, c'est, j'imagine, pour une mission ou un truc comme ça, je sais pas. Est-ce que c'est un métier dans lequel on doit avoir un métier d'appoint ? Est-ce qu'on peut vivre avec
En agence, la question ne se pose pas. Tu es salarié.
Tu es à plein temps.
Ouais. À plein temps
sur des gens qui sont plus à la pige, par
exemple. Alors, les gens qui sont à la pige, tu peux vivre, mais c'est le cas de beaucoup de métiers où tu es freelance. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu es obligé d'abattre pas mal de boulot. Quoi. Ouais. Vraiment, tu ne peux pas faire ça, à moitié. Mm-hmm. Il faut vraiment se consacrer à fond pour en vivre.
D'accord.
Voilà.
En tout cas, Fred, merci beaucoup pour cet éclairage sur la localisation. Et je trouve, et c'est intéressant que tu l'aies dit, un excellent niveau de français, parce que je trouve que ça a qualifié ta prestation, qui a été avec un langage fort châtié, ton bien tenu. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur Around the World. C'est dans quel quartier ?
C'est au Père Lachaise.
Au Père Lachaise, très bien.
C'est d'où les traductions de Pierre Tombal, non, non.
Ah bah écoute, je ne sais pas. En tout cas, voilà, merci Around the World, qui pourrait en plus faire des petites choses avec Gameblog d'ici quelques temps. Enfin bon, vous verrez. Il pourrait se passer des choses. Fred, merci beaucoup.
Ah bah pas de problème, ça m'a fait plaisir.
Voilà, maintenant sur les forums de Gameblog, vous pouvez vous aussi débattre et lire votre traduction, localisation préférée et celle que vous avez peut-être le moins aimée, celle qui vous a laissé des excellents souvenirs et celle qui vous a laissé
des bonnes vidéos.
C'est souvent
les mauvaises qui laissent des bons souvenirs.
Exactement, celles qui vous ont en tout cas marqué. Voilà, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast, toujours aussi Célesto Cosmique. Merci Fred. à très bientôt sur gameblog.fr, en vidéo pour les premiums ou en audio pour les autres. À très vite, jouez bien et portez-vous bien. Ciao.
Salut.
Salut.